On en jase, votre émission du midi sur les ondes de Boulevard 102.1. Le trio qui est avec vous était là en émission spéciale élection hier. Ah, c'était plaisant hier soir d'être à l'antenne avec vous, chers auditeurs. D'ailleurs, 418-971-1021 pour interagir avec nous. Évidemment, on va revenir sur cette élection municipale dans le caucus Iacarini avec Antonine. On va avoir Irénée également, Rutema, qui va être avec nous aujourd'hui pour parler de ceci. Mais on va avoir un de nos chroniqueurs préférés aussi maintenant, Gilles Levasseur, qui va venir nous parler de Mark Carney en Chine. Hey, c'était historique cette rencontre-là, puis ça va donner quoi? Ça faisait 8 ans que le premier ministre du Canada n'avait pas rencontré le président chinois. Alors, on va parler de ça. Catherine Fournier, l'extraordinaire mairesse de Longueuil, va être avec nous. Et on finit ça avec Patrick Scalabrini, le coach des Capitales. On a le cœur brisé depuis samedi. Oh, les amateurs de baseball ont le cœur brisé. Antonine me fait signe. Non, non, non.
Moi, ça va bien.
Je te le dis. J'ai le cœur brisé. J'étais debout dans mon salon. J'avais installé l'écran géant d'une ma blonde que je remercie beaucoup. Et je me suis levé pour l'hymne national, la main sur le cœur, la casquette dans mes mains comme les joueurs des Jays. Et j'ai chanté le « Au Canada ». J'ai poussé le « God keep your name ».
Ouais, hein, on n'était vraiment pas là-dedans, nous, de notre côté. Oh. Mais on était derrière les fans des Jays.
Ça n'a pas fonctionné malgré tout ça. J'ai pas réussi à inspirer suffisamment mon équipe.
Parce que c'est contre nature de chanter au Canada avec une casquette des Jays dans les mains.
J'avais mon hoodie des Jays sur le dos.
Ça marche pas, cette affaire-là.
Que j'ai mal. J'ai une chance que j'avais une belle soirée électorale avec toi, Pascal Cévé, avec Antonine, avec Farnel, Max, Audrey, Mathias. Parce que sinon, je ne sais pas si je serais rentré travailler ce matin.
C'est n'importe quoi. Qu'est-ce que tu nous dis là? Tu es bien trop passionné pour ça. Mais je comprends la déception, puis on la sentait. Les fans étaient très vocaux là, sur les réseaux sociaux. Les bars sportifs étaient pleins. Pour le football, moi, je suis allée faire un petit tour dans un bar sportif hier en après-midi. Habituellement, il y a du monde. Il n'y avait personne. Ouais. Ça veut dire que la fête a été faite avant. Là. Les gens n'étaient plus capables d'en prendre.
Ah, je ne sais pas ce qu'on va faire avec nos Jays qui ont passé à 2 retraites gagnées à Série mondiale.
Super belle saison pour les encourager.
Oui, exactement. On est fiers des Jays. On va en parler avec Patrick Scalabrini parce que lui est habitué des championnats. 4 championnats, mais il en a déjà perdu quand même en finale. Fait qu'on va lui demander comment une équipe se relève de ça et c'est quoi le sentiment après ça dans le vestiaire des joueurs. Donc ça va être en fin d'émission, mais vous le savez, à l'émission dans Jazz, on commence toujours l'émission avec le...
Le caucus. Le caucus. 102-1. Voici Antonine Iacarini.
Bon, 418-971-101, vous êtes comment, vous autres, à midi, là? Êtes-vous encore frustré que le maire Marchand ait passé aussi fort? Vous dites-vous, ben, moi, j'ai voté Marchand, finalement, parce qu'il a fait la meilleure campagne, puis je suis bien content. Ou êtes-vous des gens qui disent, bof, peu importe, ça, avec la campagne électorale qu'on a eue, Marchand est là, puis je vais vivre avec. Textez-nous 418-971-1021, on veut avoir votre ressenti. Antonine Iacarini, tu étais avec nous hier soir, 49%, Bruno Marchand, presque 50%. Oh, je me pensais ça.
En début de soirée, c'était 60%. Ça s'est replacé un peu plus tard, ça s'est redistribué, c'est devenu un peu plus normal, mais quand même, là, M. Marchand, il y a quelques mois, on se demandait si ça allait être le premier maire de Québec à ne pas être réélu, un maire qui se représente. Finalement, la campagne électorale, on voit que les campagnes électorales, ça change quelque chose. Tu sais, les sondages entre les campagnes, on les lit, c'est intéressant, etc. Mais c'est vraiment pendant la campagne électorale qu'il y a des choses qui se décident, les vraies personnalités de chacun des candidats ressortent, on voit les propositions, puis ça fait bouger l'aiguille. Là. Donc, il ne faut pas toujours trop se fier aux sondages en dehors des campagnes électorales.
18 comtés qui reviennent à Bruno Marchand sur 21. Les 3 autres sont détenus par Respect citoyen. Je vais t'avouer qu'hier, en début de journée, je me disais « Ouais, ça va être une majorité pour Bruno Marchand », mais je la voyais vraiment plus courte et avec pas un aussi haut pourcentage.
Moi, dans mon petit pool, là, j'avais un petit peu plus de districts que je donnais à Respect citoyen, puis j'avais donné un district à Leadership Québec. Je me disais « va être capable d'aller en chercher un ».
Ouais, je pensais que Melançon passerait, honnêtement, dans
une
son
bonne
district.
Bonne partie de la soirée, on a pensé que Leadership Québec allait aller chercher Chute-Montmorency, mais non, finalement, là, Québec fort et fier est allé chercher ce district-là également. Mm-hmm. Effectivement, ça fait une petite opposition, hein, parce que, ben, premièrement, je trouve que c'est une bonne chose qu'il y ait une opposition.
Ben oui, clairement.
À l'hôtel de ville. C'est important pour la démocratie, pour que les gens qui n'ont pas voté aussi pour Bruno Marchand aient l'impression d'être représentés. Ils vont avoir Stéphane Lachance et ses acolytes qui vont pouvoir porter cette voix-là. On a deux partis qui sont disparus de l'échiquier avec Québec d'abord et Transition Québec.
Ouais.
Jackie Smith qui a perdu son district. Claude Villeneuve qui a perdu son district. Il était chef de l'opposition depuis 4 ans.
Donc... Québec d'abord, c'est une varlope. Là. Claude Villeneuve, 3e dans Mézeray. Véronique Dallaire, 4e dans Les Saules, Les Méandres. On avait vu ce parti-là s'effriter avec énormément de départs en cours de route. Ça a juste été la continuité de cette descente aux enfers.
Oui, puis tu sais, au municipal, les partis, ça se fait, ça se défait, ça s'articule autour des personnalités qui se lancent à la mairie. C'est pas anormal, mais c'est vrai que ça a été très difficile pour cette formation politique-là de continuer d'exister avec des positions sur les sujets les plus importants qui n'étaient pas très différentes, en fait.
Exactement.
Du parti du maire.
Des positions similaires à Québec, fort et fier. On écoute Stéphane Lachance, justement, en scrum hier. C'est notre chum Mathias qui a récupéré cet audio-là, alors qu'on connaissait à peu près tous les résultats.
Qui était plus grande que ça, on se le cachera pas, mais quand même, on est quand même heureux d'être là. Je pense qu'au départ de cette campagne électorale-là, on était, il y avait M. Hamad qui était bien en avant de nous, et M. Hamad n'est pas du tout là. Aucun membre de son équipe qui est élu. Alors, on nous a souvent parlé de l'expérience, mais je pense qu'on a montré que la détermination, ça va encore plus sa place à ce niveau-là.
On lit votre déception.
C'est sûr que je peux pas être enchanté de ce qui arrive. Mais écoutez, moi, j'accepte. J'avais dit depuis le début, j'accepte le rôle que les gens allaient me confier. Donc, avec mon policier, on a réussi à remporter Val-Bélair, Sainte-Thérèse-de-Lisieux, Lac-Saint-Charles. Dans des monts, c'était pas encore joué là, avec M. Mercier. On espère que peut-être on aura un quatrième candidat. Mais on va accepter notre rôle, puis on va le faire au meilleur de nos connaissances.
Finalement, dans des mots, c'est Québec fort et fier qui est passé, ce qui fait en sorte que Respect citoyen, Stéphane Lachance dans Val-Bélair, Marc Roussin en Haute-Saint-Charles et Sainte-Thérèse-de-Lisieux avec Mélanie Sauvé, qu'on a eu en entrevue ce matin dans Marceau le matin. C'est disponible sur le blvd.fm. Je le comprends d'être déçu, mais on s'attendait à quoi? T'sais, 23%, opposition officielle. Est-ce qu'on est trop en vision tunnel du côté de Respect citoyen parce qu'on parle à notre base fait énormément de bruit sur les médias sociaux? Mais ça nous empêche de voir le grand portrait?
Bien, ça nous empêche d'accéder au pouvoir, mais si tu regardes par rapport à la campagne que Sam Hamad a faite, tu sais, Respect citoyen, les positions sont très différentes de celles du Parti du maire.
Clairement.
C'est très tranché. Alors que quand on regardait Leadership Québec, le parti de Sam Hamad, ben on disait non au tramway, mais ça va être un SRB. Tu sais, des fois, c'était un peu moins...
Au niveau du cadre financier, ça se ressemblait beaucoup, Leadership Québec et Québec fort et fier.
Ça se ressemblait un peu plus. Donc, je trouve que Stéphane Lachance a réussi à davantage se différencier. Puis le fait aussi qu'il voulait être chef de l'opposition si jamais il n'était pas maire, contrairement à Sam Hamad qui n'avait pas de colistier. Les colistiers, pour ceux qui comprennent pas, qui connaissent pas le concept, c'est que dans le fond, étant donné que les maires sont au suffrage universel. Si tu perds ton élection comme maire, ben les candidats n'ont pas de district. C'est pas comme au provincial où est-ce que tu as une circonscription. Alors, tu as un colistier dans un district qui va se tasser et te laisser la place si jamais tu perds ta mairie pour que tu puisses devenir conseiller municipal et, dans le cas de Stéphane Lachance, chef de l'opposition. Moi, je pense que ça a précipité la chute de Sam Hamad aussi parce que quand on voit que le maire Marchand est tellement d'avance dans les sondages, si tu détestes le maire Marchand, si tu veux voter contre lui, même si tu le détestes pas, mais tu n'es pas d'accord avec ses positions, bien, tu vas t'accrocher après quelle locomotive? Après le gars qui c'était maire ou rien, ou après le gars qui dit « moi, je vais rester comme chef de l'opposition puis je vais porter votre voix ».
Ça rejoint Isabelle qui marque « ah, comme tu as dit, bof, mais ma stratégie, c'était de voter pour avoir une opposition, alors j'ai gagné mes élections ». Donc, on a plusieurs réactions. On continue à réagir au 418-971-1021. On a Fred qui dit « Ouais, les gens sur les médias sociaux, il y en a une couple qui doivent roter aujourd'hui. » Et on a Carl qui dit « Moi, mon choix avait été fait en juin. J'ai déménagé à Lévis. Vive Stephen Blainey et vive Lévis. » Donc, c'est quelques réactions là, qu'on a eues. Justement, je vais revenir sur Fred avec les médias sociaux, ces gens-là qui font énormément de bruit. Ils nuisent à Respect citoyen, en fin de compte. Il faudrait que ces gens-là se calment.
Ben, moi, je pense que c'est jamais vraiment utile pour un parti politique d'avoir des militants trop intenses, qui sont dans l'insulte, qui sont dans le harcèlement, etc. Ça devient toujours un boulet pour les élus. Surtout, tu sais, quand tu es juste sur un parti politique qui vise à faire des vagues, puis que tu n'as pas d'élus, tu n'as pas de rôle officiel, c'est sûr que tu es un mouvement, dans le fond, dans ce temps-là. Puis là, tu as des gens qui sont bien crinqués, puis ça peut te sembler utile. Mais une fois que tu as des élus qui répondent à des journalistes au quotidien, qui sont face à leurs contradictions, bien d'avoir des militants qui sont tellement intenses puis qui attaquent les autres sur les médias sociaux, puis qui ne sont pas toujours dans la ligne de parti.
Hein, non, pas du tout.
Bien, ça peut devenir un boulet, puis ça peut devenir des distractions, finalement, pour ces chefs-là. Il y a plusieurs partis qui ont des militants qui sont très, très intenses. Là, sur d'autres paliers gouvernementaux, on en voit des fois, puis c'est pas toujours à l'avantage.
Oh oui, puis ça peut être à droite comme à gauche. Oui, là, on n'a qu'à penser à des militants de Québec solidaire. C'est pas toujours très poli sur les médias sociaux non plus.
Pas toujours non plus. Cela dit, c'est une autre des leçons de cette campagne électorale, c'est que si on se fiait sur les médias sociaux pour essayer de voir qui allait gagner, on a une vision un peu qui est déformée parce que les gens les plus choqués sont ceux qui parlent le plus fort, qui sont des fois le plus motivés, mais c'est pas toujours représentatif de la majorité.
Oui, puis je vais me permettre un commentaire très philosophique. La haine gagnera jamais, gang. C'est aussi simple que ça.
C'est rare, en tout cas, que ça gagne la haine. Puis on a vu que, tu sais, on le voyait dans les commentaires qu'on recevait au fur et à mesure de la campagne municipale, que quand il y a eu la chicane entre Stéphane Lachance et sa maman, puis c'est très acrimonieux. Bien, on en a reçu beaucoup des messages de gens qui disaient « ben moi, je vais aller du côté de l'adulte dans la pièce », puis ça, c'était Bruno Marchand, qui a fait une campagne plus positive, pas vraiment d'attaque personnelle là, de la part de M. Marchand au fur et à mesure de la campagne. Puis finalement, ça a porté ses fruits. Là.
Il focussait sur ses affaires. On a beaucoup vu que, tu sais, même des annonces, on en riait un peu, mais pas rire de ce qu'il faisait. Mais quand on est en campagne électorale, puis on est rendu au chaud, là, au point chaud, puis qu'on est en train de parler de terrain de tennis, ça peut surprendre. Habituellement, ça, c'est quand t'es élu, puis t'as déjà commencé un peu ton mandat. Fait à quel point il était confortable, ça se voyait dans ce qu'il annonçait aussi. Puis à quel point il était focus sur qu'est-ce que moi je veux faire, comment est-ce que mon parti travaille actuellement. Et ils se souciaient très peu de ce qui se passait à l'extérieur parce que je pense qu'ils voyaient eux-mêmes qu'ils étaient en train de se tirer dans le pied puis de laisser une belle place à Bruno Marchand. Hier, dans le rassemblement, ce qui était très tangible aussi, c'est un bon. On prenait un peu pour acquis là, qu'on allait l'avoir cette soirée-là. Avec raison, on ne peut pas leur en vouloir. Mais l'autre affaire, c'est ils sont aussi conscients. Du moins, moi, c'est ma perception de ce qu'ils m'ont dit puis ce qu'ils ont répondu, que ce n'est pas nécessairement leur élection. Qu'il y a eu une élection qui sont majoritaires parce qu'il y a eu un contexte particulier dans cette campagne-là qu'on a parlé en long et en large, mais ça, qu'ils vont devoir prouver des choses. Est-ce que ça va tenir? Est-ce que ça va faire comme le premier mandat de Bruno Marchand où il était un petit peu humble à essayer de comprendre c'était quoi la politique, c'était quoi le métier, tout ça, puis à un moment donné, une fois que t'es dans tes bottines, le ton change, puis la hausse des taxes, puis nous, on fait ça comme ça. Est-ce que c'est ça qui va arriver? C'est une bonne question, mais il a entendu que pour certains citoyens, oui, on lui donnait une deuxième chance. Mais c'était pas nécessairement parce qu'on avait donc bien cru en lui lors du premier mandat.
Il a fait preuve d'une belle humilité, Antonine. Là, ça reste à voir, comme Pascal le dit, à savoir si ça va demeurer. Mais je pense qu'il a appris de son premier mandat puis de ses deux premières années où il a mangé une méchante claque, autant par la CAQ qui est au-dessus de lui que par la population.
Oui, ça a été dur avec sa relation avec le gouvernement du Québec, notamment sur le dossier du tramway et du troisième lien. Hein, parce que même si on en rit et qu'on y croit plus bien au troisième lien, ça a créé pas mal de vagues.
Ben voyons donc, on va scinder Vanier en deux. Ah ben allez, tout pendant qu'on parle de boulevard urbain sur Laurentien puis l'autoroute Montmorency, on va scinder, on va transformer Pierre Bertrand
quand
en autoroute.
Ça, hein, quand, mettons? Mettons, quand? Là, il y a un calendrier, là, tu verras ça quand, toi?
Ah, la CAQ? Ben, la CAQ a toujours eu des calendriers où on précipite les choses.
Oui.
Moi, d'après moi, ça va commencer à creuser...
Au printemps.
Pour l'élection.
Donc, pour revenir à Bruno Marchand, ça a brassé pas mal. Il y a eu des moments pendant son mandat où on le voyait en entrevue, on le voyait dans des événements. Il avait l'air fatigué. Puis là, je parle pas physiquement, je parle plus moralement.
Moi, l'automne 2023, il avait décidé de se laisser pousser à la barbe. Il avait les cernes jusqu'en bas du menton. Il l'avait avoué, d'ailleurs, en conférence de presse, avant de partir pour les vacances de Noël en disant... Là, j'ai mis un genou à terre, je m'en vais en vacances, puis je reviens telle date parce que là, j'ai plus d'énergie.
Puis là, c'est une fatigue qui paraissait à ce moment-là, puis qu'il a nommé, mais on sentait aussi dans son niveau de patience, disons.
Il était très aigri à ce moment-là.
Face aux questions des journalistes, il répond toujours, en passant. Il fait beaucoup d'entrevues. C'est quand même quelqu'un qui est accessible, mais on sentait un peu plus d'impatience. Après ça, des sorties de l'opposition où on voyait aussi les sorties, je pense, aux commerçants dans Saint-Roch, notamment, où la réaction de M. Marchand était des fois un peu... disons, un peu bête, là, tu sais, de dire « on crée des problèmes, est-ce qu'il n'y en a pas? » Tu sais, c'était pas très à l'écoute, je dirais. Puis là, quand la campagne électorale a commencé, il y a eu un changement de ton. Puis il est devenu le gars de bonne humeur. C'était la campagne de la bonne humeur, finalement, cette campagne-là, avec une impression que ça va bien. Tu sais, comme tu disais, Pascal, beaucoup de propositions, parce que tu veux laisser une impression générale que c'est pas parce que tu es là depuis 4 ans qu'on va juste parler de ton bilan. Tu veux que les gens aient les yeux aussi tournés vers l'avenir, de dire on n'a pas terminé le travail, etc. Donc, c'est assez bien réussi comme stratégie de communication de la part de Québec, forte et fière.
T'en penses quoi? On a un auditeur qui nous écrit « Hey, laissez-moi vous dire, attendez, il a déjà fait allusion pour des augmentations de taxes. » Bon, il l'expliquait dans sa campagne qu'elle a augmenté toujours à l'inflation au plus élevé. Mais moi, ce qui me surprend, c'est dans cette campagne-là, la taxe à l'immatriculation, finalement, de 60$ par char, ça n'a pas eu d'impact, zéro impact, alors que ça avait fait une tollée dans la population. Comment t'expliques ça qu'un an plus tard, on dirait que tout le monde l'a oublié? C'est ça en politique qu'on oublie après 6 mois?
Bien, premièrement, oui, on a la mémoire courte. Deuxièmement, encore une fois, si tu es très choqué par la taxe sur l'immatriculation, tu vas le dire fort. Si ça ne te dérange pas vraiment, puis que ça ne t'empêche pas de dormir la nuit, tu vas-tu appeler quelqu'un pour lui dire, puis sortir dans les médias, puis faire des statuts Facebook pour dire « Moi, ça ne me dérange pas vraiment de payer 60$ de plus par année. » Non.
Oui, puis en même temps, cette taxe-là, tu reçois ton compte. Là. Je sais, je l'ai reçu, puis ma blonde l'a reçu la semaine passée. Tu ouvres l'enveloppe, tu sais, tabarouette, comment ça me coûte cher de même? Mais une fois que tu l'as payé, t'as oublié
aussi vite. Par contre, tu sais, puis là, évidemment, chacun a des budgets différents, puis il y en a pour qui 60$, ça fait une différence, et honnêtement, je le comprends. Et j'ai entendu des gens dire, moi, je pensais voter pour Marchand. En fait, j'ai voté pour Marchand la dernière campagne, mais parce qu'il a mis une taxe au chat. Crime, je voterai pas pour lui.
Ouais.
C'est pas parce qu'elle était chère, c'est pas parce que c'est des gens qui n'ont pas les moyens, mais par principe.
C'est le réflexe de taxer, t'as raison.
Oui, il y a des gens qui étaient bien fâchés de tout ça.
Ça dérange beaucoup, vois-tu. Anthony, j'ai fait un sondage sur mon Instagram personnel, donc on s'entend.
Non scientifique, mais quand même.
Et voilà. Et hier, je sondais aussi des gens pendant la soirée électorale. Et plusieurs dénonçaient le fait que ça a été une campagne vraiment axée sur le tramway puis la chicane.
Mm-hmm.
On a perdu de vue les vrais débats qu'on aurait dû avoir. Non seulement on n'en a pas beaucoup parlé, mais on ne sait pas ce qui nous attend nécessairement, autre que les réponses des chefs. Puis dans ce temps-là, quand tu fais une entrevue one-on-one avec un chef, ben tu entends la réponse, mais ce n'est pas nécessairement dans un grand débat ou encore pendant toute une campagne électorale. Puis les taxes sont revenues à la surface, le ton est revenu à la surface, on l'a abordé. La façon de gérer Saint-Roch en ne répondant pas aux questions, c'est énormément sorti. Tout ce qui s'en vient aussi pour construction, développement économique, développement immobilier, développement des affaires. Il y a énormément de commerçants puis de gens en affaires dans la ville de Québec qui disent majorité pour Bruno Marchand, qu'est-ce qui va advenir? Parce qu'il est très bon pour tout ce qui est environnemental, développement de pistes cyclables, développement de la ville. Mais il dit, on a eu des problèmes au niveau du déneigement, on a eu beaucoup de problèmes au niveau des petites choses du quotidien.
C'est son point faible, le développement économique. Et Sam Hamad et Stéphane Lachance n'ont pas été capables de capitaliser là-dessus. Et je me souviens, j'ai assisté au débat à la Chambre des commerces et quand on est sorti, j'ai jasé avec plein de gens du monde des affaires qui m'ont dit « Oh my God, c'était donc bien mince les propositions de Stéphane Lachance.
Ouais. »
Il a perdu énormément à ce moment-là.
Mais je pense qu'ils ont surestimé la faiblesse de Bruno Marchand sur l'économie, en fait.
Ouais.
Parce que même si c'est pas un maire qui est étiqueté comme étant économique, en débat, il était quand même très solide. Il connaît son affaire, il a ses chiffres, il maîtrise ses dossiers et il avait l'air plus en selle, finalement, que ses opposants. Je pense aussi, puis on verra, puis ça va vraiment être à surveiller, drapeau jaune pour Bruno Marchand. On l'a eu en entrevue plusieurs fois. Il se fait toujours poser la question sur son écoute, parce qu'il est très déterminé. Hein, puis il dit souvent, là, moi, je garde le cap, puis c'est sûr qu'il va y avoir des critiques, mais je garde le cap. Tu peux avoir l'air aussi déconnecté un peu quand tu parles comme ça. Et notamment, tu sais, par exemple, quand on fait un nouveau projet de piste cyclable puis que ça enlève des places de stationnement. Exemple fictif, mais vrai, en même temps, Il nous l'a expliqué aussi en entrevue qu'à un moment donné, il va toujours avoir quelqu'un de pas content. Là. À chaque fois qu'on fait un changement...
Ouais, quand il dit « je peux mettre un stationnement 20 minutes, une heure ou deux heures ».
Exactement. Par contre, il va avoir le devoir de mieux l'expliquer, j'ai l'impression, parce que c'est peut-être une des leçons de son premier mandat. C'est qu'effectivement, à un moment donné, il faut trancher. C'est impossible d'avoir l'unanimité de tout le monde. Mais explique-le, par exemple, puis explique le processus, communique-le pour que les gens comprennent que tu l'as évalué. Ça a été évalué. On les a écoutés, ces gens-là, et on n'a pas décidé d'aller dans la direction qu'ils souhaitent. Et voici les
pour
raisons.
Pour ces raisons-là, au lieu de perdre des plumes, ils pourraient les conserver sans nécessairement en gagner. Je trouve ça tellement important, ce que tu dis, Anthony.
Oui, avec un bon plan de communication. Ça sort par texto. Il y a des gens qui n'ont pas oublié la taxe à l'immatriculation. Il y a d'autres gens qui nous parlent du fameux tramway. Et là-dessus, je vous fais entendre Stéphane Lachance à chaud après, justement, les résultats d'hier.
Ben écoutez, moi, je dirais toujours que c'est un mauvais projet. Par contre, les gens qui étaient contre le tramway devaient s'exprimer. J'ai forcé d'admettre qu'ils ne l'ont pas fait. Pour le reste, je veux dire, à partir du moment où tu ne t'exprimes pas, tu ne peux pas chialer. Alors, mais moi, je ne changerai pas de discours au niveau du tramway. C'est un mauvais projet, mais on doit composer avec les résultats.
Est-ce que c'est vraiment le vote anti-tramway qui n'est pas sorti ou énormément de gens qui se sont dit « sais-tu quoi? » Ce projet-là m'emballe pas tant que ça, mais je vais quand même voter pour Bruno Marchand parce que c'est lui qui a fait la meilleure campagne.
Les deux peuvent être vrais. Ça peut aussi être « je n'aime pas le projet, mais c'est pas ma priorité de le bloquer non plus ».
Non, c'est ça.
Ensuite, il y a une autre affaire avec l'électorat de Stéphane Lachance puis l'approche de ces partis plus populistes-là là, qui aliènent les médias puis qui aliènent un peu... Tu sais, ils ont un discours anti-élite puis les politiciens.
Puis là, c'est de la faute des médias. Puis là, j'invite pas Le Soleil. Puis là, j'invite pas Radio-Canada. Puis blablabla.
Moi, je pense qu'à un moment donné, quand t'es un parti comme celui-là, et que tu t'adresses à un auditoire qui a décroché de la politique puis qui ne croit pas puis qui est cynique, mais il faut quand même que tu fasses un effort pour les amener voter après. Parce que si tu entretiens trop cette colère-là puis cette aliénation-là, finalement, ton vote, il sortira pas. Que les gens demeurent tellement décrochés qu'en fait, ils veulent même plus participer au processus démocratique. Ça serait vraiment intéressant de faire un sondage sur qui a voté, qui n'a pas voté et leur allégeance à chacun des partis. Je suis pas certaine que Respect citoyen a réussi à faire sortir son monde voté tant que ça.
Je suis d'accord. Et à l'inverse, avec la chicane qu'il y a eu entre Respect citoyen et Leadership Québec, moi, je suis convaincu qu'il y a plein de gens qui sont sortis voter pour dire « Hey, c'est pas vrai que ça va être ces deux-là qui vont gérer à la ville, mais aller voter pour Marchand. »
Sans être en accord avec son plan.
Puis parce qu'on n'avait pas beaucoup débattu des autres choses que du tramway, ben ça n'a pas retenu ces gens-là d'aller voter pour Bruno Marchand. Les candidats indépendants, ça a été intéressant aussi dans certains districts de voir comment ils réussissaient à se placer dans tout ça. Mais il est conscient. Moi, j'ai senti que Bruno Marchand était conscient que ce n'était pas que pour son parti, ses idées et sa façon d'être qui étaient là. Mais il est prêt, je pense, à faire un autre 4 ans avec le couteau entre les dents. Puis tu sais, mini parenthèse, là, vous parliez du ton, vous parliez de la fatigue de M. Marchand puis tout ça. Première sortie publique avec sa conjointe là, hier, là, tu sentais que c'était d'une toute autre énergie que ce qu'on avait.
Tout feu, tout flamme.
Puis c'est pas juste une question romantique, c'est pas une question, mais ça joue aussi dans la vie d'un politicien là, pour la suite des choses. Qui est là et comment il se sent au quotidien?
Carl, qui est déménagé à Lévis, nous écrit « Le vote anti-tramway n'est pas sorti car les porteurs du message n'étaient pas les bons. Personne ne veut être associé à Respect citoyen. » Puis en effet, avec leurs partisans sur les médias sociaux. On change de sujet, les médecins, qu'est-ce qui se passe là? On fait des webinaires, Antonine, on se parle entre nous autres, puis là, on est en train de parler d'esclavage.
Bon, là, le gouvernement a passé sa loi sous Bayon, il y a eu toutes sortes de sorties, là, vous avez sûrement vu toutes sortes de médecins sortir dans les médias, expliquer comment le projet de loi allait affecter négativement un paquet de choses, etc. Là, depuis dimanche, ça a été l'élection municipale, ça fait un peu d'ombrage à tout ça. Moi, j'ai l'impression que M. Legault et M. Dubé, ça leur donne l'occasion de respirer entre deux vagues d'eau.
En fait, ouf.
on les a peut-être sauvés de la noyade ici, là, avec les élections municipales.
On parlait des cernes de Bruno Marchand, là. peut-être récupérer un peu de peau pour Christian Dubé parce que lui aussi, ils sont pas mal bas. Là.
Ah oui, il a l'air fatigué. Mais cela dit, pendant qu'on en parle un petit peu moins, ben, il y avait des médecins hier, tout le monde en parle, mais personne n'en parle justement parce qu'on était tous les yeux rivés sur les élections municipales. On a mis la main sur un enregistrement d'un webinaire de la FMSQ, donc les médecins spécialistes, dans lequel ça nous donne un indice de comment on craint que les médecins, là, mais un choix de mots pour expliquer le projet de loi qui est un peu particulier.
On écoute ça, ça dure 1 minute 31 secondes.
Un médecin qui, dans les circonstances là, d'une loi contraignante comme ça, avec un état policier, qui dit, moi, dans ces circonstances-là, là, je ne suis plus capable d'assumer le même rythme. J'en peux plus. Il faut que je ralentisse ou il faut que j'abandonne certains aspects de mon travail sans concerter personne. J'en ai juste marre. Puis tout seul, moi-même, je décide d'arrêter certaines choses ou je diminue ma charge de travail parce que je n'en peux plus. Cette personne-là, est-ce qu'elle peut faire ça?
Absolument.
Donc, c'est clair pour tout le monde. Si vous vous sentez incapable de faire quelque chose, vous savez, c'est pas de l'esclavagisme, là, hein? Alors, vous avez encore des libertés qu'on va défendre, puis dans ces circonstances-là, si vous vous voyez imposer des amendes ou des sanctions ou des réprimandes, nous allons vous défendre.
État
ça, il faut
policier.
Que ce soit clair, là. Ce n'est pas un goulag. Ce n'est pas un état policier. On va le contester, on va le combattre, on va le gagner. Alors, si vous vous sentez incapable, vous, individuellement, pas pour faire moyen de pression, parce que vous êtes écœuré, bien, vous avez le droit d'être écœuré, puis vous avez le droit de baisser votre rythme, parce que c'est pas une prison.
Esclavagisme.
Goulag. État policier.
Ça n'a pas de bon sens.
Bien, je trouve que la loi 2 va trop loin, mais là, on va trop loin des deux bords.
Sens-tu encore la polarisation? Tu sens-tu à quel point qu'on est à des kilomètres encore?
Qui va être l'adulte dans la pièce? Puis là, je fais un parallèle avec la campagne électorale à Québec où il y a plein d'auditeurs qui nous ont texté pour se dire « Hey, je vais voter pour Marchand parce que c'est lui l'adulte dans la place. » Pendant que les deux autres font leur petite chicanette de maternelle, « Mon père est plus fort que le tien. » Lui, il propose puis il avance avec la ville. Ça va être qui l'adulte? Ça va-tu être Christian Dubé? Ça va-tu être le docteur Oliva? Ça va-tu être le docteur Amiot? Il n'y en a pas d'adultes présentement.
On pas
c'est ce qui est triste.
Donc, c'est un webinaire dans lequel, dans le fond, les médecins pouvaient s'informer sur le projet de loi 2. En passant, le gouvernement aussi fait des webinaires d'information pour les médecins pour expliquer comment ça va fonctionner et les fédérations de médecins encouragent les médecins à ne pas s'y présenter.
Ça fait pas de sens.
Mais, gars, tu vois-tu là? Ils veulent pas. Ils disent que c'est de la propagande de toute façon. Vous savez déjà tout ça, etc. Et là, on fait des webinaires parallèles. Il y avait un avocat qui est là puis qui leur explique qu'est-ce qu'ils peuvent faire et qu'est-ce qu'ils peuvent pas faire. On les encourage aussi à arrêter de travailler puis à dire c'est pas grave si vous poignez des amendes, on va vous défendre.
Ouais. Mais c'est parce que ce qui fait pas de sens, c'est que tu as un webinaire organisé par le gouvernement qui va expliquer comment tes primes, à l'AC et tout ça va être fait. Fait que là, tu vas pouvoir vraiment faire ton calcul à savoir, j'en perds-tu 15, 45, 50% ou j'en perds pas pantoute. Puis là, ta fédération dit, participe pas à ça, c'est de la bullshit, mais on va te faire participer à un webinaire avec un avocat qui va t'expliquer comment contourner la loi. C'est ça qui fait pas de sens.
C'est ça qui fait pas de sens. Puis on va aussi encourager de continuer à mettre des anecdotes dans le journal où on dit que les médecins, avec la nouvelle loi, vont nous payer 26$ de l'heure puis des affaires de même, qui sont peut-être vraies, là. C'est juste que je ne vois pas dans quel monde ne pas être bien informé sur la loi est une bonne chose. Et bien, continuer comme ça, de craquer les médecins, c'est sûr que de se faire rentrer une loi spéciale à travers la gorge en baillon, ça n'allait pas faire une super ambiance. Là. On est tous d'accord là-dessus. Donc, à ta question, est-ce qui va être l'adulte dans la pièce? Moi, j'entends pas de signaux du côté du gouvernement qu'on va faire un pas de
côté.
Moi
non plus.
Tu sais, de dire, par exemple, les sanctions là, dont on parle. Là. Si les gens partent à la retraite de manière organisée ou essaient de s'en aller, OK, on va faire un pas de côté là-dessus, on va les retirer. Parce que, honnêtement, retenir des gens avec des chaînes puis des menottes, là, ça n'a jamais rien donné de bon.
Oui, menacer.
Ça sert à rien. Tu sais, si tu veux retenir les médecins, ben ça va être avec... Puis tu sais, il n'y a pas juste l'argent, là. Il y a l'organisation de répondre à certaines de leurs demandes, d'améliorer le système. Puis on fait pas d'omelette sans casser des œufs. Il allait de toute façon avoir des médecins qui allaient quitter à partir du moment où il allait avoir de la rémunération qui est liée à des indicateurs de performance. On le savait, mais d'attacher le monde avec des menottes, là, ça n'a jamais fonctionné. Ça ne marche pas. Mais pour l'instant, on n'a pas de signaux de la part du gouvernement qu'on va relâcher un petit peu de lest sur les... Puis on entend le ministre dire on est encore ouvert à négocier. Ils n'ont pas le choix de dire ça. C'est légal. C'est-à-dire que vu que ça va être envoyé devant les tribunaux, il faut que le ministre démontre constamment que
de
la négociation... De l'ouverture.
Ah, je
c'est
comprends.
C'est les avocats, qui disent ça. Fais ça.
Je comprends la stratégie. On termine l'excellent caucus Iaccarini du lundi au jeudi dans l'émission On en jase à partir de midi avec... On avait le chef neurologue de l'Enfant Jésus, Martin Savard, en entrevue avec nous dans Marceau le matin. On va terminer avec quelque chose qui n'a pas de sens, c'est Doug Ford.
Mais des gens qui vont partir... Moi, j'ai un collègue qui a appelé Doug Ford.
Okay.
Il a parlé à Doug Ford.
Directement?
Oui, c'est directement. C'est pas des jokes, là. C'est quelqu'un qui travaille à le même hôpital que moi. Il a parlé. Puis on lui a dit, c'est parfait. Mon ministre de la Santé va te rappeler le lendemain. Puis il l'a rappelé. Puis ainsi va la vie. Je ne vais pas le jeter en dessous de l'autobus, là, mais j'ai envoyé un courriel vendredi matin à mon député. J'avais envie de parler à mon
provincial,
député.
Provincial, fédéral?
Mon député provincial. Un député de la CAQ, puis j'avais envie de lui parler, puis de pouvoir lui expliquer ma réalité. Je ne suis pas sûr que ces choses-là se rendent à leurs oreilles. On nous invite à la discussion, on nous invite à parler. J'ai eu droit à un courriel qui disait « On prend une bonne note que vous nous avez contacté, patati patata, automatisé par une machine, puis je n'ai pas de nouvelles de mon député jusqu'à maintenant. »
Donc, ton député au Québec t'envoie un message automatique, puis le premier ministre de l'Ontario te parle directement. C'est quand même deux poids, deux mesures. C'est quand même c'est assez... Bon. Exactement. T'en penses quoi? Oui, c'est deux poids, deux mesures, mais aussi, écoutons, ils n'ont rien à faire en Ontario. Parle à nos médecins.
Hey, c'est
qu'est-ce
spécial.
Tu sais, que le premier ministre puis oui. Le ministre de la Santé parle à un médecin. Voyons donc, okay, j'ai jamais vu ça. Moi.
Ils sont bien désespérés d'avoir des médecins. Mais c'est ça que je me suis dit dans les derniers jours en entendant un médecin dire qu'il textait direct avec Doug Ford. C'est quand même capoté. Plusieurs choses. Premièrement, c'est normal que quand vous écrivez à votre député, vous recevez un message automatique. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas vous revenir. Deuxièmement, moi, je trouve que c'est correct que les médecins parlent directement à leurs députés et tout ça, parce qu'ils doivent donner leur perspective.
Ben oui.
Puis des députés bien informés des deux côtés de la médaille, c'est une bonne chose. Cela dit, je ne sais pas c'est qui son député, mais son niveau de pouvoir sur Christian Dubé doit être assez minime.
Non, en effet.
Moi, j'entends que ça brasse en ce moment là, mm-hmm. à la CAQ, puis qu'il y a quand même des gens qui voudraient qu'on lâche un peu de lest, mais que le ministre et le premier ministre sont extrêmement déterminés. Mais bref.
Preuve, Lionel Carman a démissionné.
Puis on l'a laissé partir.
Ça donc, fait très même si le député, moi je suis où Martin habite, là, mais je ne le mettrai pas dans le trouble.
Non.
Parce qu'il n'a pas le dire. Mais même si le député de sa circonscription allait parler à Christian Dubé, là, Lionel Carman était obligé de sacrer son camp. Là,
puis
donc,
sur Doug Ford, tu sais, OK, le gouvernement, là, il a fait une loi qui est mal ficelée, on peut la critiquer et tout ça, là, mais c'est quand même un vlimeux. Là, parce que, je m'excuse, mais c'est supposé être l'ami de François Legault.
Ben oui.
Puis tu sais, il y a une différence entre accueillir les médecins qui veulent faire défection, tu sais, je veux dire, c'est bien correct, mais de publiquement racoler nos médecins, rajouter un 800 Doug Ford, le numéro de cellulaire directement, ouais. Ça va quand même loin. Là. Moi, je pense que M. Legault et Doug Ford à ne plus inviter dans le même party. Là.
Ben, sais-tu quoi? Moi, peut-être vous allez me traiter de rancunier, mais j'ai hâte que l'Ontario soit dans le trouble avec quelque chose puis qu'on appelle les travailleurs là-bas.
T'sais, honnêtement, puis qu'est-ce que tu faisais tantôt? Tu avais la main sur le cœur, tu chantais le Haut-Canada, la l'Unité nationale, tout et chose. Hein? C'est pas
bon,
que...
le caucus Iaccarini!
Puis, dernière chose sur Doug Ford, il voulait être capitaine Canada. Il nous a prouvé que c'est pas capitaine Canada,
non,
Doug Ford. C'est capitaine Ontario.
Oui.
Ses intérêts et ceux de l'Ontario passent avant tout le reste. Puis, tu sais, honnêtement, quand il est question de défendre l'industrie automobile en Ontario, je comprends. Mm-hmm. Quand vient le temps d'aller voler les médecins dans les autres provinces, franchement, est-ce que c'est vraiment nécessaire?
Non,
c'est cheap
ça.
Un peu.
Exactement. On termine avec « C'est encore la population qui va écoper par leur chicane. » Je comprends les médecins, mais la population va payer pour ça, en effet. Et on a également Christian qui nous écrit « Doug Ford se comporte exactement comme Donald Trump. Il a perdu toute crédibilité à mes yeux. » En effet, il se comporte vraiment comme un bully, Doug Ford, à l'heure actuelle. Antonine Iaccarini, merci encore pour hier soir pour l'émission spéciale sur les élections.
C'était vraiment le fun.
Merci pour ce matin d'avoir frappé en relève à Denis Gravel dans le Pit Stop. Demain matin, ça va être Pascal Cévé qui va frapper en relève dans le Pit Stop. On fait les femmes.
Hey,
cette semaine.
On est des remplaçantes.
Il faut qu'on soit remplaçante dans une thématique de femmes, c'est ça que tu veux dire, Jay?
Antonine Iaccarini.
On va être là juste le 8 mars, en tout cas.
Oui, la journée des droits des femmes.
Antonine Iaccarini, Pascal CV. Mercredi, ça va être Catherine Bachand. Jeudi, Véronique Bergeron. Puis vendredi, Audrey Pinchot. C'est une idée d'Yannick Marceau.
Bon, les auditeurs, vous envoyez des messages pour dire que c'est extraordinaire comme semaine.
C'est extraordinaire, certainement.
Mais non, on aime Denis, là.
Je te promets de ne plus chanter l'hymne national avec la main sur le cœur. Tu m'as convaincu avec ce que Doug Ford est en train de nous faire.
Hâte de voir cette promesse.
Je vais continuer à prendre pour les Jays, parce que c'est mon équipe de baseball favorite, mais je ne chanterai plus l'hymne national. On fait une courte pause et par la suite, on termine notre couverture de cette élection municipale avec notre chroniqueur politique municipal, Irénée Rutema. Et Pascal, on va faire un tour des nouvelles. Autre chose que les élections municipales.
Oui, parce qu'il y en a plein d'autres choses. Ouais. On ne fera pas comme la campagne, on ne parlera pas juste d'un point. Le tramway, pour l'instant, là, dans les prochaines 24 heures, c'est derrière nous.
Exactement. Alors, restez avec nous. Vous êtes à l'émission On en jase sur Boulevard 101. Émission On en jase sur Boulevard 101. Il est exactement midi 41. Donc, à la météo, aujourd'hui, c'est 10 degrés de la pluie. Donc, présentement, il n'en tombe pas, par exemple. Donc, on va souhaiter qu'il ne tombe pas trop de pluie. On annonçait un 5 mm. Donc, peut-être que ça va passer en vent. Demain, 8 degrés, possibilité d'averse. Mercredi, 6 degrés, pluie intermittente. Jeudi, 4 degrés, nuageux. Bref, Pascal, là, on s'en sort pas. Là. L'été au mois de novembre, ça n'existe pas, là, finalement.
Non, puis c'est bien correct. Moi, je trouve que l'automne, ça fait du bien parce que tranquillement, on va commencer à hiberner, là. On va dans le temps des fêtes. Il y a quelque chose de relaxant là-dedans.
J'ai travaillé dehors toute la fin de semaine. Crème que j'aime ça, l'automne, travailler dehors, l'air fraîche et pur.
L'impression de rien manquer. Ouais. Tu sais, l'été, là, quand t'es à la maison.
Mais t'as raison.
Puis sinon, t'es en dedans, puis si tu fais une sieste, il y a quelque chose de... Non, tu te sens pas bien. Alors voilà.
Oh, le cocooning.
Prescription de cocooning.
Je suis très d'accord avec ça. On va aller voir Irénée Rutema, notre chroniqueur municipal que nos auditeurs adorent. Irénée, t'es-tu du genre cocooning, toi?
Écoutez, je pense que j'ai manqué un petit bout, là, mais je peux vous dire que... Oui, je dirais que oui, là, mais ça dépend des fois.
Ah, Irénée, un petit cocooning, un petit film avec sa petite conjointe à côté, ça fait toujours du bien. Hein?
Exactement, et ma conjointe voyage beaucoup, donc quand elle n'est pas là, j'occupe au divan devant Netflix, souvent avec un bon verre de vin.
J'adore ça, Irénée, j'adore. Irénée, en passant, merci beaucoup, parce que toi et Pascal CV, vous êtes les étoiles du match hier, alors que t'avais le téléphone dans les mains, oui, que tu nous parlais. Pascal te fait signe. Albert Marchand passe, pitch-moi mon téléphone. Puis bang, ça s'est donné qu'on a parlé avec Bruno Marchand.
Hey, écoutez, c'était... Mais bravo. Je pense qu'elle est rendue ma meilleure amie plus que toi.
Mais je comprends pas comment ça t'es tombé sous le charme de Pascal alors que c'est moi que tu connais depuis plus longtemps. Irénée, je suis jaloux.
Tu peux être jaloux, mais on s'est rencontrés et là, un œil, là, vraiment, là, on a travaillé en équipe comme si on se connaissait depuis des millénaires.
Ben, c'est ça.
Donc, on est allé en avant prendre une petite vidéo avec Monique Néron. Moi et elle, on a Monique Néron est là. Par la suite, donc, quand vous m'avez appelé, mais je ne répondais pas, vous l'avez appelé, nous sommes sortis à l'extérieur.
Oui.
Tout d'un coup, j'étais perdu dans mes explications et vous dit, le maire est là, on va le chercher, on lui donne nos téléphones. Et là, son équipe était là, mais qu'est-ce qui se passe? Puis là, on a parlé avec lui, vous avez parlé avec lui. Il ne voulait pas raccrocher. Son équipe disait, il faut qu'on le sorte. Et Pascal a eu une idée de génie. Il a écrit une petite note dans mon cahier et a montré au maire, je pense que... Mais là, il faut essayer, je ne sais pas qu'est-ce qu'il lui a dit. Là.
J'ai écrit, c'est correct, tu voulais raccrocher parce que je voyais que... Je sais c'est quoi une soirée électorale, ça va vite. Puis souvent, ben voilà, nous, on avait été extrêmement chanceux. On avait passé devant plein d'autres médias pour avoir cette première entrevue-là officielle, mettons, à la radio, parce qu'on l'avait attrapée là, sur le côté. Mais je voyais qu'il se faisait tirer de part et d'autre. Ouais. Donc, j'ai juste écrit « si jamais », parce que ça faisait un bon 5-6 minutes. Par respect.
Pascal CV, t'as une touche parfaite.
Mais t'es tellement professionnel que t'as effacé le mot.
Oui! C'était ton cahier, c'était pas le mien.
Oh, j'adore ça.
je vais marquer la date pour les archives. Là.
Ça, c'est des petites histoires là, dans les coulisses que j'adore savoir. Oui. Irénée, avec Antonine, on a beaucoup parlé de Stéphane Lachance et de Bruno oui. Marchand. J'aimerais t'entendre sur Sam Abad. C'est une catastrophe. Leadership Québec, aucun élu, à peu près 14% finalement qu'on termine au niveau des intentions de vote. Bref, Sam Abad, ça n'a jamais levé.
Écoute, M. Abad a fait patate et j'ai beaucoup de peine en disant ça parce que, mais je n'ai pas le choix. Il est revenu en disant qu'il aimait Québec. Et là, hier, il a assisté à un spectacle de désamour de la part des gens de Québec. Et j'aime la politique, je respecte l'individu, mais c'était une campagne épouvantable du début presque jusqu'à la fin. Des erreurs de débutants. On a parlé des erreurs dans les médias sociaux, dans la vérification des candidats. Et moi, ce qui m'a surpris et qui m'a frappé, c'est que samedi dernier, je suis allé dans son événement. Et là, les gens qui étaient dans son entourage, les candidats, étaient complètement déconnectés parce que ils essayaient de m'ospiner. Ça va super bien, tout se passe bien sur le terrain, les médias, vous allez être surpris.
Mais c'est le discours habituel de la politique, là, où encore ils se croyaient, mais souvent on va dire ça parce qu'on n'a pas vraiment le choix puis il faut continuer de rallier les troupes.
Oui, oui, mais je pense, mais des fois, on peut te spinner, mais après ça, ils te disent, écoute, je peux pas te dire la vérité, mais ça paraissait vraiment que ils m'ont spiné, puis j'étais là, je dis, mais... Écoutez, moi, les chiffres que j'ai, ce que j'entends sur mon propre terrain, ce n'est pas ça, mais peut-être aussi qu'ils ne voulaient pas se démotiver. Mais donc, et j'ai beaucoup, beaucoup de peine pour Isabelle Roy, qui avait traversé de l'autre côté de la chambre, Steven Mélenchon et lui, Martin. Je me suis dit, ce matin, quand ils se sont réveillés, ils ont dit, oh là 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 là, on a aucune intuition politique et ça fait... je pense qu'ils vont prendre quelques jours de congé, mais ça, Mamad a déçu. Écoutez, il est parti quand la campagne a débuté. Je pense que un an avant la campagne, il était à deux points qui le séparaient avec monsieur...
En effet.
Monsieur Marchand. Marchand. Par la suite, le sondage de 2024 disait que 50% de gens avaient une opinion favorable de M. Abad contre 48% pour M. Marchand. Et tout s'est effondré. Et lui qui disait tout le temps, le vrai sondage, c'est le terrain. Mais là, le terrain lui a dit, non, merci M. Abad, retournez, je le dis respectueusement, à Saint-Augustin et prenez un petit peu de vacances en Floride, là, aller jouer au golf, mais c'était humiliant, là. C'était désastreux. Et il m'a fait penser à M. Coderre, là. Vous vous souvenez quand Madame Jack Smith avait dit M. Abad, c'est le Coderre
de
Québec. Et aussi, là, je vais donner la citation à M. Villeneuve. C'était vraiment un touriste dans la campagne municipale à Québec et les chiffres le démontrent royalement.
Est-ce que, Irénée, ça va faire en sorte, justement, ça met fin à ces vieux politiciens qui ont été à un autre palier de gouvernement, que ce soit au fédéral et au provincial, et qui viennent se présenter, justement, comme candidats? Est-ce que ça laisse... Oui, vas-y.
Mais la politique, c'est pas une science exacte. Ce n'est pas 1 + 1 = 2. Regardez à Lévis, M. Blény a gagné. Vraiment, alors que c'est un ancien politicien conservateur, ancien ministre, mais j'ai l'impression, du moins à Québec, que je maîtrise mieux qu'aujourd'hui, là, nous sommes rendus ailleurs. Donc, on veut des nouvelles idées, on ne veut pas des gens qui nous ramènent dans le passé. Et M. Abad, ça a été ça, sa faiblesse, c'est que c'était un candidat quand j'étais ministre. Quand j'étais ministre, voici ce que j'ai fait. Quand j'étais président du Conseil du Trésor. Donc lui, son expérience qu'il répétait continuellement nous faisait croire que c'était un gars du passé. Et ça lui a collé à la peau jusqu'à ce
il échoue complètement.
Hier, on parlait, toi et moi, hors d'onde, Irénée, parce qu'on était dans le rassemblement de Bruno Marchand, puis on se disait, bon, écoutez, là, c'est festif, ça crie, fait chaud, la salle est pleine, les gens sont là, multigénérationnels dans la salle, les enfants de Bruno Marchand, sa nouvelle... On voyait que c'était euphorique, puis en plus, à chaque fois qu'il y avait un candidat élu ou réélu, ça recommençait. Il y a quelque chose de très effervescent, il y a quelque chose autour du pouvoir où il faut faire attention souvent dans la vie aussi, parce que ça donne beaucoup, disons, d'envie de régner d'une manière ou d'une autre. Après, on voit la grandeur d'un politicien de la manière où il va user de son leadership. Cette fois-ci, il est majoritaire. On a vu quelques frasques au niveau du charisme, quelques frasques au niveau du ton, de l'écoute. Est-ce que tu essaies de regarder comment ça va se passer pour Bruno Marchand pour la suite? Est-ce des choses que tu vas surveiller foncièrement?
Oui. Je vais surveiller ce qui suit. Puis hier, écoute, il y avait les frères. C'était la folie. Je note que quand Eleni a été élue, écoutez,
Eleni Lepage,
la gang criait, là. C'était, elle a volé la vedette à M. Marchand. Et M. Marchand était triomphaliste et avec raison. Mais tu te rappelles, on a parlé avec une conseillère de M. Marchand. Et elle, que je connais, et j'ai parlé avec quelqu'un d'autre qui est proche de Marchand. Ils étaient heureux, mais je les ai sentis humbles dans la victoire et surtout conscients des défis et des responsabilités qui s'en viennent parce que ils ont beaucoup de nouveaux élus qui n'ont pas d'expérience. Et il faut gérer toute l'équipe. Et là, ils vont nommer du staff politique là, dans le cabinet du même Marchand. Après ça, ceux qui vont aller au conseil exécutif, là, donc le gouvernement municipal, vont être choisis. Et donc, je les ai sentis vraiment, on vient de gagner, mais là, on a un grand travail qui nous attend. Et je les ai sentis très humbles et j'avais l'impression eux ne célébraient pas comme Marchand ou les élus célébraient. Alors, ce que Marchand doit faire attention, c'est donc il faut qu'il soit humble de la victoire, très 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 humble. Et il a dit aussi qu'il allait être le maire de tout le monde et qu'il allait aller dans les banlieues. Il faut qu'il aille prêcher la bonne nouvelle dans les banlieues, prêcher la bonne nouvelle des gens qui sont des automobilistes afin que qu'on avance vraiment, là, que la vie puisse avancer. Mais aujourd'hui, il peut triompher, mais le travail va arriver dès aujourd'hui. Et ce que j'ai aimé, je l'ai écouté dans d'autres entrevues, il disait qu'il va écouter jusqu'en janvier avant de mettre une proposition sur la table comme il faut. Là. Donc c'est ça que moi je sens, que j'ai ressenti hier.
Irénée Rutema, chroniqueur en politique municipale pour Boulevard 101, merci beaucoup de ta présence aujourd'hui. Et on se reparle bientôt, sûrement vendredi, pour un petit bilan de la semaine comme d'habitude.
Parfait, excellent. Alors, mais très content. Merci pour la confiance. On a eu du plaisir. Puis, mais là, j'avais peur de vivre une dépression parce qu'une campagne électorale, tu sais, il y a des situations. Mais là, comme je reviens vendredi, ça va aller. Là.
Bon, ben parfait, excellent. Salut, Irénée. Passe une belle semaine.
Salut, bye.
Salut, bye. C'était Irénée Rutema, un personnage qu'on adore, un nouveau chroniqueur politique pour nous depuis quelques semaines. Et vous avez toujours des commentaires positifs. Bon, Pascal, on a parlé énormément de l'élection municipale et avec raison depuis le début de l'émission. Mais qu'est-ce qu'il y a à suivre d'autre dans l'actualité?
Alors, Bruno Marchand... Non, je fais des farces.
Attends, Bruno Marchand, a-t-il été élu? Y avait-tu une élection hier? Qu'est-ce qui s'est passé?
Oui, mais c'est sûr que ça tourne autour de ça. On est dans une éclipse médiatique. Veux pas. Par contre, je vais t'amener dans un cas qui marque un peu l'imaginaire. On parle d'un meurtrier qui a attaqué au hasard des passants puis qui avait poignardé aussi à mort une pure inconnue dans un centre d'achat. On est du côté de Saint-Hyacinthe, on n'est pas à Québec. Puis ça, c'est il y a 4 ans. Donc, si vous creusez en votre mémoire, vous en souvenez, c'est sûr. On se demandait pourquoi. Et ça avait nourri aussi un climat de méfiance dans la population. Et c'est ce qu'on a dit en cours. C'est des attaques qui sont inexpliquées. Alors, c'est sûr que ça provoque toujours une genre d'inquiétude collective. Là. Et on a réalisé et fait réaliser à plusieurs citoyens que ça aurait pu se passer n'importe où. Marc-André Houle a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Fallait être très strict, sévère. Une peine automatique parce que le mois dernier, l'accusé avait été reconnu coupable par un jury du meurtre prémédité de Manon Savoie. Le drame, on remonte en 2021, au 11 août 2021, sortait un peu de la pandémie tout en étant un peu à cheval sur celle-ci, mais un ancien espoir du baseball majeur, il arrive aux Galeries Saint-Hyacinthe, il a semé la panique, il attaque gratuitement les passants. Et d'abord, c'est une aînée de 86 ans qui l'a poussé au sol en sortant de l'autobus et il a asséné des coups de poing. Donc, il avait volé deux couteaux dans un commerce, il s'était rendu dans une bijouterie, puis en moins de 6 minutes, ben là, il y a une femme qui se trouve pour faire changer la pile de sa montre à la bijouterie. Puis Marc-André Houle l'a attaqué par derrière. Il y avait eu photo aussi de tout ça. Il s'est acharné sur ses victimes. C'est vraiment épouvantable comme histoire, mais on ne peut pas revenir là-dessus. On se demandait un peu ce qui se passait dans le dossier. Puis des fois même, on oublie, hein? On oublie ce qui se passe.
Mais tant mieux, reconnu coupable, prison à vie, puis pas de libération avant 25 ans, c'est une bonne nouvelle.
D'autres nouvelles en ce qui concerne l'immigration et tout ça. Donc, une mère qui a été expulsée du Canada, elle a fait affaire avec un avocat qui était radié du barreau, donc l'ex-avocat, qui a aussi été condamné à une amende salée pour avoir pratiqué illégalement la profession. Quand on parle d'ordre, là, ben, le barreau en est une.
Oui.
Organisation, en fait, qui régit tous ceux qui sont avocats. Il faut que tu payes à chaque année, il faut que tu exerces aussi dans les technicalité du barreau. C'était pas chose pour un jeune homme de 26 ans dont la femme a été expulsée du pays après avoir fait affaire avec un avocat radié. Donc, il a décidé de la suivre au Mexique, d'y lancer un casse-croûte typiquement québécois en attendant de pouvoir rentrer au pays. Donc, c'est des gens qui se sont fait veux pas avoir là-dedans. Mais en même temps, c'est une histoire un peu triste où on voit l'importance de bien faire les choses, surtout dans le dit contexte. Quand on sort des élections aussi, on peut lire certaines affaires ce midi en fait, ce qu'il faut savoir, il y a tout ce qui tourne, je le dis, là, ça revient toujours autour de ça, mais tout ce qui tourne aussi autour des conflits à l'international.
Oui.
L'Ukraine qui a reçu d'autres systèmes de défense aérienne pour contrer la Russie. Quand on disait qu'on allait mettre fin à cette guerre-là avec Donald Trump, on est loin de ça.
On est loin de ça. D'ailleurs, parlant d'Ukraine, blvd.fm, Derek Blouin-Berry, on l'a reçu dans Marceau le matin. Vendredi, il est présentement là, en transition pour aller faire sa 5e mission en Ukraine, 50 jours là-bas.
Il est tellement intéressant, je suis contente qu'on le prenne régulièrement ici à Boulevard parce que c'est un point de, tu sais, de comment dire, une courroie de transmission d'informations très importante.
Vraiment.
Quand ça nous semble loin, ce genre de conflit-là, mais il faut savoir que là, on a reçu un nouveau système de défense aérien. Cette fois-ci, c'est Patriot de fabrication américaine pour contrer les bombardements quotidiens de la Russie. Donc, c'est un peu ironique hein, quand t'entends ça, veux pas, mais on a annoncé ça du côté de la bouche de Volodymyr Zelensky qui est président de l'Ukraine. Il y a des drones russes qui ont tué un homme puis blessé 5 membres de sa famille, dont 2 enfants, dans la dernière attaque nocturne.
Tant mieux. Pascal, je te parlais de ma soirée de baseball de samedi passé. OK, tu prêtes ça? C'était l'extase de la 3e manche.
Bo Bichette is the best hitter in baseball this year with runners in scoring position. He hit 380. Fly ball deep center. Edmonds going back. The ball is going long. 3-run home run. Bo Bichette. Breaking ball.
Là, t'imagines... Ah, là, t'imagines, on mène 3-0, c'est la 3e manche. On est complètement en feu. On se dit, ça y est, on va l'avoir. Puis là, ça devient 3-1. 3-2. Là, les Jays prennent les devants 4-2. 4-3. Un retrait de fin en 9e manche. Il nous reste 2 retraits pour fêter. Puis Miguel Rojas frappe un coup de circuit en solo. C'est 4-4. On se retrouve en 11e manche et voici ce qui arrive.
Smith, it's a high fly ball to deep left field. It's got a chance. It is gone. It's Will Smith in game 7. And in the 11th inning of game 7, the Dodgers lead for the first time.
Pour la première fois du match, les Dodgers prennent les devants en 11e manche. Un coup de circuit de Will Smith, le receveur des Dodgers, qui devient ici le 5e joueur de l'histoire de la franchise à avoir produit le plus de points en série. Mais là, après, un retrait. Vladimir Guerrero nous frappe un double en 11e manche. Et là, on se retrouve avec Vladimir Guerrero au 3e but et Edson Barger au 1er but pour Alejandro Kirk qui a frappé vraiment des gros coups sûrs dans les séries. Donc, la foule est en son extase. Tout le monde y croit encore. On sait, on va aller la chercher quand même, cette série mondiale-là.
The strike's on Kirk.
And the pitch. And a broken bat. Grounder to short. And the Dodgers turn it and win it.
Un double jeu, Pascal. Le bâton du joueur des Jays a explosé sous l'impact. Donc, ça fait en sorte que la balle a été frappée très mollement. Et comme c'est sûrement le plus lent coureur du baseball majeur à l'heure actuelle, ça a été facile de tourner le double jeu.
Les Jays
ont perdu 5-4.
Le prenez-vous ou vous vous dites « Ah, c'est vraiment la faute de la conception du bâton? »
Oh non, c'est comme ça. ça explose des fois, les bâtons. Les lanceurs lancent tellement la balle fort. Alors, c'est ce qui est arrivé. Donc, défaite des Jays, on en parle tout à l'heure à 13h30 avec Patrick Scalabrini. Comment on se remet d'un revers aussi catastrophique que ça.
Jeff, si on veut sortir un peu de ce qui nous entoure en termes d'actualité, ce soir, c'est le retour d'un podcast, le podcast de Sylvain Dancause, le prof Dancause, à 20h.
En effet, à 20h, prof Dancause, à 19h, pardonne-moi, prof Dancause qui va être là pour une troisième semaine de 5. Et ça va être très intéressant parce que c'est Karine Hamel, psycho-éducatrice, qui va justement être avec le prof Dancause. On va parler de la gestion des comportements à l'école. Et on s'en pose-tu des questions là-dessus?
Oui.
Comment qu'on agit avec un jeune qui est en crise, comment qu'on doit faire avec un jeune qui écoute jamais, avec un jeune qui a des comportements violents. Donc, on va parler de tout ça avec Karine Hamel dans le podcast Classe à part avec prof Dancause. Et Pascal, tu le sais, c'est une présentation de la Caisse des Jardins de l'éducation qui vous accompagne avec constance et engagement parce qu'être là pour la communauté qui façonne notre avenir, c'est notre raison d'être. Alors, ne manquez pas le podcast Classe à part ce soir, 19h.
Oui, 19h, parce que si vous fiez sur mon 20h, vous l'avez manqué.
Ouais, vous l'avez manqué. Ça va être disponible également sur notre site. Pascal, je sais que tu t'attardes énormément à l'actualité chinoise, à ce qui se passe en Chine, l'espionnage au Canada, aux États-Unis.
Depuis des années.
Depuis des années. Bien là, on a Gilles Levasseur qui va nous parler de cette visite de Mark Carney en Chine. Vendredi dernier, il a rencontré Xi Jinping, le président chinois. Première rencontre en 8 ans entre le premier ministre canadien et le président chinois. Donc, on parle de ça avec Gilles Levasseur, professeur en gestion et droit à l'Université d'Ottawa. Immédiatement après cette courte pause, c'est à l'émission On en jase sur Boulevard 102. On en jase, votre émission du midi jusqu'à 14h sur les ondes de Boulevard 102 avec Jeff Fortin, Pascal CV. Ça nous fait énormément plaisir de vous accompagner du lundi au vendredi. Pascal, je te dis, le mot Chine, ça élève quoi chez toi? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête?
Ça bouillonne, parce que pour moi, c'est autant des partenaires d'affaires que, je dirais pas ennemis, mais clairement, j'ai à surveiller.
Ben oui.
Ils ne font pas dans la dentelle, ils travaillent pour leur pays.
Il y a de l'espionnage qui se fait de là-bas.
Depuis des années, tu sais, c'est des gens, en fait, extrêmement brillants, mais qui vont capitaliser pour devenir une grande puissance. Puis ils vont s'y prendre de toutes les manières. Donc, c'est pour ça que je te dis chaud et froid.
C'est ça. Et on va justement aller parler avec Gilles Levasseur, qui est professeur en gestion et droit à l'Université d'Ottawa, parce que ça a été une première rencontre entre Mark Carney et Xi Jinping, le président chinois. Et c'est une première rencontre en 8 ans entre un premier ministre canadien et un président chinois. Monsieur Levasseur, comment allez-vous?
Toujours bien.
Good. Monsieur Levasseur, comment faut prendre cette rencontre-là? Est-ce qu'il faut la prendre positivement ou faut avoir nos craintes face à la Chine?
Mais ce qui arrive, c'est qu'au départ, ce qu'on veut faire, c'est de rétablir les ponts qui ont été brisés dans le passé pour différentes raisons. La question maintenant, c'est de savoir qu'est-ce qu'on est prêt à faire comme compromis pour travailler avec la Chine. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, on a eu des difficultés avec la Chine à plusieurs égards. Et c'est là la question de savoir jusqu'où est-ce qu'on est capable de repartir et avoir confiance. On va donner l'exemple classique où est-ce que actuellement au Canada, les agriculteurs ont perdu plus de 1 milliard de dollars avec la canola. La Chine l'a interdit, mais la Chine a dit, moi, je vous propose quelque chose. On va rouvrir l'accès au canola à la Chine, mais vous, vous devez accepter que nos voitures électriques arrivent au Canada sans avoir tous ces tarifs-là. Alors, c'est là le débat pour le Canada, savoir, est-ce que je prends le risque de me mettre à dos les Américains ou est-ce que je prends le risque de dire, on va aller chercher les voitures pour que le canola puisse se rendre en Chine? Et la raison, c'est qu'actuellement, ce qu'on voit, c'est qu'on a été capable de développer d'autres débouchés pour le canola, ce qui fait en sorte que la présence ou l'obligation d'avoir une entente tout de suite n'est pas aussi forte qu'il l'aurait été il y a 3 ou 4 mois passés.
Est-ce qu'on est essentiellement obligé d'aller faire des partenariats d'affaires ou de rester très près de la Chine quand on dit « restez près de vos ennemis, ça va vous servir ». Est-ce que c'est le cas ou vraiment c'est parce qu'on a malheureusement pas assez développé notre économie et notre autosuffisance et notre pays? Donc, on doit, dans un contexte difficile comme celui qu'on connaît avec les États-Unis, aller farfouiller le monde pour justement réajuster les choses.
Mais c'est ça qui est arrivé, c'est que pendant plus de 35 ans, 40 ans, le discours était toujours de faire du développement international et pas juste avec quelques pays. Et le problème, c'est qu'on s'est concentré sur les États-Unis parce que c'était nos voisins et la Chine parce que les produits étaient, vous savez, abordables à des prix qui sont, qui étaient au départ dérisoires. Mm-hmm. Donc là, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on a développé cette relation-là de facilité et le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas été ailleurs pour aller chercher d'autres marchés. Et c'est là, quand il y a une crise comme on a actuellement, on est bloqué. Ça prend du temps à développer de nouveaux marchés, aller chercher des gens, avoir le transport pour amener les biens de l'autre côté. Et c'est là où est-ce que ça va prendre facilement 2-3 ans pour tout canaliser nos produits et nos services dans d'autres marchés. Donc, ça va se faire, mais il faut payer le prix maintenant. Puis, il ne faut pas chialer du fait que ça se fait avec difficulté parce que c'est le fait qu'on ne l'a pas fait pendant plus de 40 ans qu'on a accepté notre sort tel qu'il est aujourd'hui. Mm-hmm.
Monsieur Lavasseur, est-ce que l'économie a une morale? Parce que pour moi, il me semble de faire affaire avec les Chinois, un pays autoritaire, moi qui est un grand démocrate, ça me fait mal au cœur. Mais est-ce que l'économie a une morale ou faut coûte que coûte dire je développe mon économie puis je m'en vais chercher la richesse où elle est?
Donc, au départ, il faudrait peut-être regarder les professeurs d'université et les gens qui sont dans le commerce international, qui ont été les premiers à pousser vers la Chine nos industries, nos activités de production, les bas prix. On a poussé cela. Donc, les entreprises ont suivi le modèle qu'on leur donnait puis qu'on leur disait parce que c'était moins cher, c'était plus rapide, on était capable d'avoir des produits à gauche ou à droite facilement. Donc, on a vendu une salade qui, au départ, est agréable. Sauf que le problème, c'est que la Chine a compris comment prendre un produit de base et de le refaire et de l'améliorer pour qu'il revienne au Canada, toujours avec un revenu plus élevé pour eux autres. Mm-hmm. Ça a augmenté leur richesse au point où est-ce que la balance commerciale avec les Chinois était devenue déficitaire pour le Canada. Et c'était un gros problème parce qu'on était devenu dépendant de ces produits-là. Puis c'est ça que la Chine fait, c'est qu'elle prend un produit, elle va le transformer pour l'améliorer. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand vous allez dans des grands centres de magasins de vêtements ou dans des supermarchés, c'est plus fait en Chine, c'est en Thaïlande, vous savez, au Vietnam, ça va être au Cambodge, parce qu'eux autres ont monté la qualité de la gamme. On est devenu dépendant de cette nouvelle technologie. Et c'est là le problème avec les voitures électriques. Actuellement, c'est une crise qui existe à Beijing avec les employés. Pratiquement toutes les voitures qui sont faites à Beijing pour le marché international, c'est toutes des robots. Ils n'ont même plus de lumière dans leur bureau, c'est tout noir, puis ils baissent la température parce que c'est des machines. Donc, ils n'ont pas besoin de se casser la tête sur la qualité de l'environnement. Donc, ce qui fait en sorte qu'ils sont capables d'arriver avec des produits de qualité à des prix tellement bas qu'on n'est plus capable de concurrencer ici en fonction du fait qu'on a encore des ouvriers qui travaillent dans l'usine.
Est-ce qu'on peut se poser la question à savoir c'est quoi la suite des choses pour le futur? Parce qu'on a l'impression d'être dépendant assurément. Ça sera encore le cas pour plusieurs années parce qu'on tente de développer ces choses-là, on est en retard. Mais la dépendance fait que souvent, on va accepter ce qu'on ne devrait pas accepter. Ça vient avec des technicalités du type, tu t'inscris sur un réseau social où tu veux voir si tu vas avoir l'air de quoi dans 45 ans, puis je veux dire, tu as 2 pages d'acceptation, puis finalement, on fouille dans tes données. Jusqu'où on est capable de se ferrer contre ça, de ne pas se vendre à rabais, de ne pas vendre, en fait, des données qui sont sensibles?
Mais l'affaire, c'est qu'au départ, c'est d'apprendre à protéger son acquis. Vous savez, on est très ouvert sur nos réseaux sociaux. On offre toutes les données. On partage tout. À l'université, c'est la même chose. On est là, on offre tout le contenu, comme si, bref, tout le monde était pour respecter les règles du jeu. La réponse, c'est que c'est non. Les gens ne respectent pas quand ils peuvent avoir un avantage social ou économique sur un produit, un bien ou un service. Et c'est un peu de notre faute parce que on n'a pas développé cette notion-là de protection. On n'a pas développé les outils de faire en sorte qu'on vise certains pays, certains marchés, puis on ne veut pas les changer à tout le monde. Donc, ce qui fait en sorte qu'on fait très attention de ne pas donner nos secrets. Je vais donner un exemple de cela. 50% de l'industrie du luxe est français. Sauf que qu'est-ce qui arrive, c'est que vous allez en Chine, et vous allez avoir les catalogues pour avoir tous les produits que vous voulez de ces sociétés-là. le problème, c'est que souvent, ces sociétés-là ne vont pas poursuivre parce qu'ils se disent « ça va donner quoi ?» parce qu'on n'est pas capable de trouver le lieu de production. Ils ont appris à toutes nous copier. Donc, le problème, c'est que ça coupe sur la motivation de faire des marchés dans certains pays. Mais c'est ça qu'il faut comprendre. Si on continue, nous autres, on va finir par être dans cette situation-là. Et c'est là où est-ce qu'il faut apprendre à être plus vigilant, puis de protéger nos acquis, mais aussi de faire une chose qu'on ne fait pas assez. On fait pas assez de recherche et développement localement. On ne fait pas ce travail-là de vouloir avoir de nouvelles idées. Parce que, vous savez, au Québec, il y a des gens très brillants qui créent des PME. Il y a des gens qui savent exactement qu'est-ce qu'on pourrait faire, mais on pousse pas à la prochaine étape. Et ça serait intéressant de voir que si on pouvait aider ces femmes et ces hommes-là, parce que les femmes sont très créatives. Tu sais, dans les PME, on oublie cette conception-là, parce qu'on prend toujours pour acquis c'est des hommes, mais les femmes sont très créatives au Québec. Donc, ce qui fait en sorte qu'on ne les aide pas à la prochaine étape, donc on va toujours à l'étranger chercher ce qu'il y a de besoin, parce qu'on ne l'a pas bâti chez nous. Donc, à un moment donné, on devient dépendant par nos propres erreurs.
On parle avec Gilles Levasseur, professeur en gestion et droit à l'Université d'Ottawa. Monsieur Levasseur, justement, si on veut développer nos PME, ça passe par où? Est-ce que ça passe par un budget très déficitaire comme on va vivre demain avec des investissements massifs du Canada dans nos PME? Ou ça passe par un allègement fiscal de nos PME qui va leur donner plus de latitude?
Bien, au départ, c'est les deux choses. Mais ce qui nous manque au Québec, c'est des moyennes et des grosses entreprises. Les PME québécoises, là, elles sont capables de faire des merveilles. On a juste à regarder la liste des 300 PME là, qui est sortie pour 2025. Vous allez voir qu'elles sont capables d'aller dans différentes directions. Le problème, c'est qu'une fois qu'on est une PME, ben le problème, c'est qu'il y a quelqu'un qui voit notre génie, notre fonctionnement, nous fait un chèque, c'est vendu. C'est ça qui arrive, d'accord? Il y a toujours cette notion-là que parce que c'est tellement bien fait, on le vend. Alors, ce qui fait en sorte qu'on ne développe pas pour grossir. Deuxième des choses, on n'a pas développé la notion d'acquisition. Vous savez, vous regardez le fait que, par exemple, on a perdu Saint-Hubert, Rona, je peux faire la liste, d'accord, Provigo, tout ça. On se fait acheter. Mais qu'est-ce que nous, Québécois, on a acheté pour être capable de grossir? Parce que quand on grossit, ben les PME vont s'entourer de ces entreprises-là parce qu'ils savent qu'ils vont pas fournir les pièces ou fournir le bien. Nous, on n'a pas développé cette culture-là d'être un bourgeois capitaliste. On n'a pas développé cette culture-là d'arriver de dire « on va acheter le voisin, on va aller le prendre le voisin ». Puis c'est ça qui est le problème. Donc, on ne construit pas des grosses machines qui vont être capables d'appuyer les PME. Donc, il faut toujours avoir le gouvernement qui vient aider parce que c'est la seule façon souvent de faire sortir les PME de leurs difficultés. Et c'est là le défi de développer cette culture-là. Et ça commence, puis je vais le dire, au cégep, ça commence à l'université dans les cours où est-ce qu'il faut qu'on leur dise « vous allez être le patron, vous allez être le propriétaire, vous allez être le bourgeois capitaliste. Il n'y a pas de gêne à le dire « just go and do it ». C'est ça qu'il faut qu'on développe dans notre société pour être capable de la prochaine étape. Sinon, on va toujours dépendre des autres. On fait des bonnes choses, mais on vend ce qu'on a.
Est-ce qu'on peut vous demander, M. Levasseur, qu'est-ce qui découle de cette rencontre-là entre Mark Carney et le Canada, les points, le show qui en sont ressortis ou encore s'il n'y en a pas, ben, de nous le dire.
Bien, la première des choses, c'est le fait qu'on est capable de ne pas toujours avoir des conflits directs. Donc, la Chine veut absolument travailler le Canada pour différentes raisons. Par exemple, le passage du Nord-Ouest. Vous savez, les gens ne comprennent pas pourquoi M. Trump est toujours le 51e État, d'accord? Que le Canada serait le 51e État. C'est pas parce qu'il veut avoir le Canada, c'est pas parce qu'il aime la neige. C'est pourquoi? C'est parce que, voyez-vous, on s'est fait donner un nouveau territoire dans l'Arctique par les Nations Unies. Et notre voisin, les États-Unis, ont une petite portion qui découle de l'Alaska. Sauf que c'est pour ça qu'ils cherchent le Groenland, qui a le gros du morceau de l'Arctique avec le Canada. Et lui, ce qu'il dit, en ayant ces morceaux-là, j'ai accès justement à un système qui fait que mon voisin, c'est la Russie directement, mais deux, j'ai accès à tous les puits de pétrole, à tous les produits qu'on appelle les terres rares. J'ai accès à tout cela sans avoir de problème. Donc, ça veut dire, c'est quoi l'important? La Chine veut faire la même chose. Elle veut utiliser le passage du Nord-Ouest et avoir accès à l'Arctique. Parce que ce qu'on appelle ça des terres rares, il y en a 17 dans le monde. Le Québec en a une quantité énorme de ces terres rares. C'est comme si des métaux précieux, c'est comme des produits chimiques qui sont nécessaires à la technologie de demain. Le Québec en a, vous savez, pour mourir. Le problème, il faut qu'on ait quelqu'un qui mette de l'argent pour aller creuser, pour aller chercher cela. Mais c'est ça que veulent faire les Américains. Les Chinois veulent faire la même chose. C'est pour ça qu'ils sont gentils, pour être capables de pouvoir circuler puis de passer de l'Est à l'Ouest en ayant, vous savez, un peu d'obligation au niveau de les brise-glaces. Mais après ça, j'ai plus besoin de passer par le canal de Panama. J'ai plus besoin d'avoir des obligations de faire le contour de l'Amérique du Sud ou de l'Afrique du Sud. Je passe par le Canada. C'est ça qu'ils veulent. C'est pas ça qu'ils veulent avoir une relation avec les autres.
Ouais,
c'est
pas juste
parce qu'on est gentil.
Puis je termine là-dessus. Ouais. Est-ce que, justement, c'est une stratégie de Mark Carney de mettre la pression sur les États-Unis en allant rencontrer la Chine pour ce qui a trait à notre Grand Nord?
Bien, c'est une façon de dire aux Américains, écoutez, là, nous, on est prêts à travailler avec vous. On va aller acheter plus que probablement des sous-marins, probablement de la Chine, de l'Allemagne, d'accord? Et pas de la Chine. La Corée du Sud, plus que probablement, non. Sauf que ce que ça fait comme message, ça dit aux Américains, écoutez, là, vous avez quelqu'un qui a toujours été loyal avec vous, qui a toujours été au rendez-vous. Pourquoi est-ce que vous nous tassez comme cela? Parce que, bref, c'est pas un respect que vous avez envers nous. Ben, si nous, on doit faire des choix, on va faire des choix. Le problème, c'est que plus vous faites ce genre de gestes-là, plus vous allez aussi avoir des réactions négatives de certains membres de la gouvernance américaine. Et c'est là que vous embarquez dans un combat qui fait pas, qui s'arrête pas, il fait juste escalader. Donc, faut faire attention parce qu'on veut pas se mettre à dos les Américains. C'est une période difficile, mais on va passer au travers. C'est juste qu'il faut apprendre à comment est-ce qu'on va passer au travers correctement sans tout perdre.
Monsieur Levasseur, merci beaucoup. Gilles Levasseur est professeur en gestion et droit à l'Université d'Ottawa. Merci beaucoup pour votre éclairage sur ce voyage de Mark Carney en Chine et on se reparle bientôt. C'est toujours intéressant de vous jaser.
À la prochaine. Au revoir.
Au revoir. Merci beaucoup, Gilles Levasseur, professeur en gestion et droit à l'Université d'Ottawa. Pascal, c'est toujours le fun de jaser avec Gilles Levasseur.
Absolument, puis ça nous donne un regard sur l'international qui est soudainement si près dans notre cour.
Oui, exactement, avec ce conflit international. On va aller un petit peu plus localement, même si c'est un petit peu plus loin que nous, Pascal, parce qu'on va aller féliciter une mairesse qui a été élue pour un deuxième mandat. Et en plus, Gadon Sarr va avoir un congé de maternité durant son 4 ans à la mairie de Longueuil. On parle de Catherine Fournier. Madame Fournier, comment allez-vous?
Ça va très bien. Merci beaucoup. Si je peux me permettre de corriger ce que vous venez de dire.
Oui.
Je vais avoir un enfant, oui, mais je vais prendre une pause de mes activités publiques, pas de mes fonctions, de mes restes comme tel. Ah. Ce travail-là, je vais le poursuivre.
Vous êtes exceptionnelle.
Je vais le tenter. Mais écoutez, on verra. Moi, je trouve que je suis surtout très privilégiée comme femme d'avoir le choix de pouvoir moduler mon horaire, d'avoir une équipe qui va être flexible, qui va s'adapter non pas à mon horaire à moi, mais plutôt à l'horaire de mon fils. Je tenais quand même à le mentionner. Là, à moins qu'il y ait un enjeu de santé important, je compte demeurer en fonction.
Je trouve ça très rafraîchissant en tant que femme d'entendre ça parce que souvent, c'est quelque chose qui est très, très complexe. En fait, on voit souvent des politiciennes quitter parce que la conciliation travail-famille, elle est difficile en politique. C'est très prenant. C'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Est-ce que vous en avez discuté avec d'autres politiciennes de votre congé de maternité ou encore de cette maternité-là, qui est une superbe nouvelle, là?
Pas nécessairement encore. Je dirais qu'il y a quand même peu de modèles. Écoutez, je suis en contact avec Marois Risky, quand même, là, ouais, que j'ai côtoyé à l'Assemblée nationale. On n'a pas eu l'occasion de s'en jaser, mais ça viendra certainement. C'est sûr qu'au municipal, la dynamique est différente. T'sais, je vais dormir chez moi à tous les soirs, dans tous les cas. Puis comme je le disais, étant donné qu'en tant que mairesse, je suis quand même la première dirigeante de la ville, j'ai cette chance-là là, d'avoir justement une équipe qui va s'adapter à mon horaire, comme je dis. Les femmes souvent ont le choix de prendre leur congé de maternité entier, mais il y a peut-être beaucoup de femmes qui aimeraient ça pouvoir continuer à travailler un peu pendant leur congé de maternité, qui n'ont pas l'occasion, ou juste d'avoir des heures un peu réduites ou une redirection de tâches. Moi, dans mon cas, ça va vraiment être ça. Les tâches, comme je disais, en public pendant un certain temps, je vais les déléguer à des collègues là, qui vont assurer ma représentation dans la communauté, mais pour tout ce qui est décisionnel, donc je trouve que c'est une chance aussi de pouvoir choisir, tu sais, de pouvoir moduler mon niveau d'implication durant cette période-là pour pas sacrifier les moments avec mon nouveau-né, mais tout en continuant les fonctions que j'adore.
Madame Fournier, vous avez été élue à 90% et plus au niveau du pourcentage de vote. Quels sont les défis que vous avez à relever pour la ville de Longueuil?
Il y en a énormément de défis. On va évidemment poursuivre sur l'avancée du premier mandat, notamment en matière de stratégie d'habitation. D'ailleurs, je pense qu'on va bien pouvoir collaborer là, au sein de la communauté métropolitaine de Montréal ici, parce que la nouvelle mairesse de la métropole a pas mal adopté là, le même positionnement que Longueuil. Puis bon, donc avec Laval, on travaille déjà très bien. Donc sur le plan du logement social aussi, parce qu'on sait que c'est la réponse la plus structurante à l'enjeu de l'itinérance, qui est aussi une des plus grandes préoccupations des citoyennes et des citoyens. Mais je vais insister sur la question de la réflexion de nos infrastructures. Ça a été un dossier que j'ai porté haut et fort ces derniers mois et que je considère absolument essentiel. On a besoin de donner de l'amour à nos infrastructures existantes qui sont en fin de vie. Malheureusement, on fait face à un déficit de maintien d'actifs important. Que l'on parle de nos routes qui sont à refaire, de nos aqueducs, nos égouts qui doivent être remplacés. Et moi, j'ai tenu à être très franche avec les citoyennes et les citoyens de Longueuil. Pour les 4 prochaines années, on va seulement investir dans ce qui existe déjà. Parce que justement, le rattrapage est trop important, c'est criant. Donc, avant de se lancer dans de nouveaux projets d'infrastructures qu'on va devoir ajouter à la liste d'entretien, ben, je pense que notre responsabilité première, là, c'est de s'occuper de ce qui tombe pratiquement en ruine dans certains cas. Je trouve pas acceptable qu'on ait des piscines extérieures qui soient fermées parce qu'elles sont trop vétustes, que des centres communautaires soient également fermés en partie parce qu'il y a des enjeux de santé, salubrité, en raison justement de cet état de décrépitude, là, littéralement, avancé dans certains cas. Donc, réparons ce qu'on a d'abord, puis travaillons aussi sur les coûts de construction, parce que le prix des infrastructures a explosé ces dernières années. Il faut identifier des solutions avec les autres paliers de gouvernement, notamment pour réduire les normes, la réglementation là, qui est imposée aux villes et qui parfois là, s'annule entre elles tout en faisant grimper la facture. Et finalement, ben, tenter des modèles innovants. Longueuil et Laval, on s'est déjà proposé pour... Ouais, faire des appels d'offres.
Vous en êtes où dans cette collaboration-là, justement? C'était ma prochaine question. Est-ce que ça avançait? Est-ce que vous avez déjà fait des projets pilotes ou ça s'en vient?
Non, ben on l'a annoncé il y a à peu près 2 semaines. Là. Donc, on était évidemment là, pris un peu dans nos campagnes respectives. On attendait de voir si on allait avoir le mandat de la population pour aller de l'avant. Mais certainement qu'on va tenter là, plus tard, au début de l'année 2026, un premier projet de collaboration.
C'est très intéressant de suivre aussi le travail que font les municipalités entre elles. Longueuil est une très grande ville en soi, avec beaucoup de problématiques comme d'autres, des enjeux, en fait, des défis, qu'ils soient positifs ou négatifs. Pour la suite des choses, Longueuil semble très bien dans la mentalité des gens depuis que vous êtes au pouvoir. On ne peut pas changer ce qu'on voit, ce qu'on constate. Félicitations, Madame Fournier, mais il y a des défis, des enjeux criants. Sur quoi on se penche pour les prochaines années, puis comment est-ce qu'on travaille en collaboration, entre autres avec la Ville de Québec, si jamais?
Bien, tantôt, j'ai parlé d'itinérance, puis je pense que c'est un bon exemple de façon de travailler aussi avec la Ville de Québec. Votre maire, M. Marchand, a été très actif sur ce dossier-là. Il a porté le dossier au sein de l'Union des municipalités du Québec, notamment grâce à l'organisation d'un grand sommet là, il y a quelques temps déjà auquel la Ville de Longueuil a participé. Donc c'est un dossier qui est commun à nos deux municipalités pour lequel, oui, les villes doivent faire toujours plus. En fait, tout le monde doit faire plus, hein, que ce soit les gouvernements. Il y a une sensibilité, il y a eu des nouvelles sommes, mais c'est aussi dans la flexibilité puis dans la rigidité, au contraire là, de certains programmes, qu'il y a du travail à faire, à mon sens, là, pour avoir une réponse qui soit plus cohérente et plus rapide aux besoins urgents, notamment du monde communautaire, mais de l'itinérance de façon générale. C'est sûr, les enjeux de santé mentale, de toxicomanie viennent complexifier le portrait, mais pour notre part, on répond présente en tant que ville. Et on va continuer de faire.
On parle avec Catherine Fournier, qui est mairesse de Longueuil. Madame Fournier, vous avez parlé tout à l'heure de votre collaboration déjà avec la nouvelle mairesse de Montréal, Soraya Fernandez-Ferrado, au niveau du logement, que vous aviez la même vision. Qu'en est-il en matière de transport en commun? Parce que je regarde, c'est une grève au mois de novembre des chauffeurs de la STM et veut pas, ça impacte énormément vos résidents qui ont à se déplacer dans la grande région métropolitaine.
Effectivement, je suis quand même très préoccupée de la situation. J'espère qu'il y aura un règlement rapide. En même temps, je comprends évidemment que ces enjeux sont très complexes. Il y a une table de négociation qui est en cours, mais il faut toujours penser aux usagers les plus vulnérables, dans le sens qu'il y a des gens qui dépendent du transport en commun. C'est pour ça que, personnellement, je suis d'avis que le transport en commun devrait être un service essentiel, pas juste aux heures de pointe, mais à longueur de journée. Là. Donc ça veut dire que moi, je considère qu'il ne devrait pas y avoir le droit de grève dans le transport en commun. Et je suis d'accord que les travailleurs ont tout à fait le droit de faire valoir leur point, de faire des moyens de pression. Évidemment, j'y crois à cette défense-là, mais la grève a trop d'effet là, sur des populations qui sont vulnérables, qui sont dépendantes, qui ont souvent pas beaucoup de revenus. Donc, à mon sens, c'est préoccupant. Puis c'est pour la raison pour laquelle j'espère que ça va se régler le plus rapidement possible.
On aimerait avoir un axe différent aussi sur la politique parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'appels à la jeunesse. On a ici beaucoup de nouveaux élus, en fait, qui sont très jeunes dans l'équipe de Bruno Marchand, qui ont réussi à aller chercher le cœur des électeurs dans les dernières heures. Vous en êtes une porte-étendard de la jeunesse en politique, puis ça fonctionne pour vous. Vous semblez vous y plaire aussi d'être passionné. Comment est-ce qu'on pourrait rendre les choses un petit peu plus faciles pour des candidatures, puis surtout les valoriser?
Mais je pense que c'est de tendre la main. Hein. Moi, j'ai été élue à un jeune âge. Puis la raison pour laquelle j'ai des collègues élus aussi encore plus jeunes que moi, ben c'est parce que j'y crois en la jeunesse, puis que en tant que jeune élu, ben j'ai passé au suivant, puis j'ai mentoré d'autres plus jeunes que moi à faire leur place. Puis je pense que ça les a mis en confiance aussi de savoir que moi je l'avais fait. Donc, on prend la peine de se doter d'une équipe qui soit représentative du milieu où on se présente. Donc, qu'on donne la place à la jeunesse, la place qui lui revient, ben, ils nous le rendent bien, hein. Les jeunes, ils sont très dévoués, très passionnés. Moi, les jeunes candidats dans la vingtaine qui ont été dans mon équipe ont fait énormément de porte-à-porte, de rencontres sur le terrain. Ils ont beaucoup à apprendre, mais ils ont également beaucoup à donner. Par leur dynamisme, par leur curiosité, leur volonté de servir. Donc non, moi j'invite vraiment toutes les personnes en position de leadership à faire confiance à la jeunesse et à tendre la main.
C'est tellement un beau message, hein, Mme Fournier. Je suis convaincu qu'il est entendu à travers la province. Et merci de demeurer un modèle, là, justement, pour cette jeunesse. Là. Je pense, justement, à Québec, là, la conseillère municipale de Saint-Roch-Saint-Sauveur, Hélénie Lepage, qui a été élue à 29 ans
ben
avec
oui,
un jeune garçon de 2 ans.
J'ai eu l'occasion de la croiser déjà dans des événements lorsqu'elle était attachée de presse de M.
Oui.
Marchand. Puis c'est une jeune femme qui a l'air extrêmement dévouée, passionnée, énergique. Je la suis sur les réseaux sociaux. Je suis très contente pour elle.
Oui, on l'aura d'ailleurs en entrevue demain aux alentours de 13h15.
Bon, ben, saluez-la de ma part.
Ça va nous faire plaisir. Madame Fournier, si jamais vous êtes de passage à Québec pour un événement, faites-nous plaisir. Lâchez-nous un petit texto, ça va nous faire plaisir de vous accueillir en studio.
Ben, avec plaisir. J'en ai pas à courte échéance, mais si j'en ai un bientôt, je vais m'y rendre.
Excellent. Merci beaucoup de votre disponibilité aujourd'hui. Félicitations pour votre réélection dans Longueuil.
Et votre grossesse.
Et on vous souhaite un excellent accouchement, si on ne se reparle pas, et beaucoup
merci,
de bonheur dans votre rôle de mère.
Merci.
Merci beaucoup, au revoir. C'était Catherine Fournier, mairesse de Longueuil. J'ai bien hâte de voir, Pascal, le projet pilote avec la ville de Laval, Stéphane Boyer, qui est le maire là-bas, où on va se regrouper pour faire des appels d'offres, pour justement tenter de faire diminuer les prix. Catherine Fournier, c'est la première à avoir parlé de ça. Quand elle a payé 1 million pour un feu de circulation, elle disait, là, il y a des maudites limites.
Ah oui, puis je suis contente qu'on en parle de façon publique, là, comme
oui.
Ça. Là, je veux dire, ça se rend à Québec, puis si ça fonctionne, ça se déroule bien. Bien, on serait bien stupide de ne pas embrayer le pas dans ce cas-ci.
Québec-Lévis,
ouais.
Si Longueuil-Laval fonctionne, on va souhaiter que Québec-Lévis trouve un terrain d'entente.
Ok, oui.
Hein, parce que...
Mais hier, j'ai posé la question à Bruno Marchand.
Oui.
Hein. On était en scrum après son élection, puis j'ai dit, ok, parfait, là, Québec, on vient de choisir le maire dans sa continuité. Nouvelle ère politique du côté de Lévis, Stephen Blainey, qui est un homme avec un CV politique étoffé, qui a réussi à se faire élire. Ce sera quoi le travail entre Québec et Lévis? Il va falloir qu'on soit très conscient que l'interconnexion ne fait pas abstraction à un travail structurant dans le transport. Là.
Exactement. Donc, il faut que nos deux rives travaillent ensemble. Et vous voyez, dans la région de Montréal, ça se fait entre Laval et Longueuil. Surtout que Montréal emboîte le pas aussi, que cette grande communauté métropolitaine regagne un peu de pep en économie et en infrastructure. On a besoin de ça au Québec.
À chaque fois que j'entends des gens rire de Montréal, discréditer Montréal et ses environs et tout ça, je veux dire, là-dessus, là, ils l'ont beaucoup plus que nous. Nous, on fait de la petite politique quand vient le temps de travailler en collaboration. collaboration. C'est
oui.
temps de se retrousser les manches.
Vous savez, vous faites toujours réagir au 418-971-1021. Excellent texto qui vient de rentrer. Ça sort des lois spéciales pour les médecins, mais rien pour le transport en commun qui était un service essentiel pour certains. Tellement d'accord. Cependant, la problématique, c'est que c'est le tribunal administratif du travail qui a décrété que le transport en commun n'était pas un service essentiel, à part dans la région de Montréal aux heures de pointe. Fait que les gouvernements sont pris avec ça. Et c'est pour ça que Jean Boulay a déposé le projet de loi 89 qui permettrait justement au gouvernement de dire « Hey, wow, minute, là, ça, il y a des personnes défavorisées qui payent le prix pour ça. Vous êtes obligés de travailler. » Évidemment, ça ne fait pas l'affaire des syndicats. Ce projet de loi-là, normalement, devrait voir le jour le prochainement.
Ah oui, puis c'est large, hein? Le TAT, le Tribunal administratif du travail, on parle souvent de conciliation. Il y a des juges, des audiences là-dedans. C'est québécois. Oui. C'est spécialisé, en fait, dans les litiges, là, en droit de travail, comme les conflits, comme les normes de travail.
Exactement.
Mais ça... C'est sans aucun doute la chose sur laquelle on doit se pencher parce que tu parles des gens qui sont moins nantis.
Ben oui.
Mais il y a aussi tout ce qui est travailleur essentiel qui utilise le transport en commun, les malades qui utilisent le transport en commun. Ça va beaucoup plus loin, là. C'est l'économie derrière ça. C'est
clairement, le commerce local.
Ben, le commerce local, tu sais, je veux dire, on peut le mettre en 34, mais on le met quand même.
Oui.
34.34 dans le sens, en arrière de ces gens-là qui sont travailleurs essentiels, qui travaillent justement en santé et autres. Il y a une variété de gens qui, malheureusement, appellent prix quand ça arrive. Puis si on a à faire un petit prorata ou encore de peser les choses, malheureusement, on veut que ces gens-là soient capables de contester leur des avantages, désavantages de travail.
Vraiment.
Mais là, ça paralyse tellement le secteur.
Oui, exactement. On va souhaiter que ça se règle rapidement dans le camp de Montréal. Ici, à Québec, au moins, il y a des conventions collectives pour les chauffeurs et le personnel d'entretien pour encore quelques années. On fait une courte pause à Boulevard 101. C'est dans l'émission On en jase. Et après ça, Pascal, on parle de la défaite crève-cœur des Blue Jays de Toronto avec Patrick Scalabrini, l'entraîneur-chef des Capitales de Québec. Exactement 13h42 minutes. Vous êtes à l'émission Dôme en jase sur Boulevard 101. Je vous rappelle, meilleure façon de nous écouter, l'application Boulevard disponible sur App Store et Google Play Store. Puis venez toujours nous voir sur twitch.tv/BLVD/FM. Pascal, le respect citoyen en veut un quatrième. Il y aura recomptage dans le district des Monts parce que l'écart est de moins de 200 votes.
OK, je ne suis pas surprise, mais je suis surprise parce que ça arrive souvent en temps d'élection, en temps de fin de campagne, qu'on n'est pas très content des résultats. Mais là, quand même, je pensais qu'on avait bouclé la boucle, mais non, merci. Respect citoyen envisage effectivement de demander un recomptage dans les Monts. Donc, c'est Stéphane Lachance qui pourrait demander un dépouillement judiciaire. Mm-hmm. Ça veut dire qu'on prend le district Les Monts, où il y a moins de 200 votes, comme tu as dit. Puis, ben là, c'est sûr que ça sépare le vainqueur du candidat qui a été défait, mais c'est là où on est appelé à intervenir puis aller faire un recomptage dans le scrutin. Donc, M. Lachance a affirmé qu'il a constaté dimanche qu'il y avait eu des problèmes avec la façon dont le personnel d'un bureau de scrutin, d'un autre district, en fait, c'est celui de Val-Bélair, pardon, qui est ciblé, qui intervenait avec les électeurs qui se présentaient sans avoir en main leur avis d'inscription à la liste électorale. Alors voilà, on semble croire que le même genre de problème pourrait être survenu dans le district Les Monts. C'est pour ça qu'on demande un recomptage.
Le maire Marchand en entrevue à 16h dans le retour. Stéphane Lachance, 16h45. Manquez pas ces deux rendez-vous. Ça va être très intéressant. Denis en vacances, c'est Véro, Audrey Pinchot et Gab Marino qui seront là avec vous pour vous accompagner dans le retour.
Extraordinaire trio. Puis c'est ça, deux grosses entrevues là, quand même. Ben oui. Stéphane Lachance, Bruno Marchand.
La meilleure couverture en politique municipale, c'est-y. Pascal à Boulevard 102.
Bien, on se donne, en tout cas, là, on y met du cœur, mais surtout, on est très passionnés.
Oui.
Ça aide. Écoute, dans l'actualité aussi, si je peux me permettre, ben il y a une nouvelle priorité pour la ministre Guilbeault, le regroupement de municipalités. Donc, la ministre a commenté le nombre élevé de municipalités puis les enjeux qui sont liés au recrutement de candidats. Donc, le lendemain d'élection, ça fait brasser des affaires, mais chose certaine, on l'a questionné sur le nombre, justement, de municipalités qui est élevé, puis comment est-ce qu'on compose avec tout ça. Puis elle a dit, bien, on est temps plein dans cette priorité-là. C'est une des priorités que je me suis donnée. Sur les 1091 municipalités du Québec, 568 ont vu leur maire ou leur mairesse être élue sans acclamation.
Hey, c'est énorme, c'est près de 50%.
Exactement, donc on veut revoir le tout. Petite information d'ambiance.
Let's go!
J'appelle ça une nouvelle anecdotique. tu sais ce qui s'en vient, en fait, là. On est à la veille du dépôt du budget au fédéral. Budget qui attire énormément l'attention. Quelqu'un a été défait là-dessus, hein? Justin Trudeau a été pointé du doigt à de nombreuses reprises.
La crise sur la mise à jour économique avec le départ de Chrystia Freeland.
Exact. Alors là, on aura un genre de nouveau budget. On est à l'aube de tout ça. Le ministre des Finances et du Revenu national, c'est François-Philippe Champagne. Ouais. Et là, il a un peu succombé à cette symbolique-là d'aller faire ses souliers lui-même. Donc, normalement, la tradition à la veille du dépôt du budget fédéral, ben c'est surtout c'est autour des souliers, là. Puis normalement, tu vas en acheter des neufs. C'est ça que les prédécesseurs ont fait depuis que la tradition a commencé dans les années 1950. Et lui a décidé tout simplement d'aller fabriquer les siens. Il dit que c'est un geste en guise de clin d'œil au slogan électoral des libéraux, bâtir un Canada plus fort. Alors, il est allé chez Bottes Boulay, c'est à Saint-Tite, en Mauricie. Et c'est réputé pour des bottes de cow-boy, entre autres, là, vous les connaissez. Mais il fabrique aussi les bottes de la Gendarmerie royale du Canada et pour l'armée. Donc, il est là, puis il est en train de les construire, de les fabriquer, mon ami.
Fait que des beaux souliers neufs pour un budget troué de déficit.
En tout cas, on a vu qu'il polissait une paire de chaussures noires. Alors,
OK, ça aurait pu être des souliers troués, mais bon, on va en reparler demain. De
ils ont l'air bien beaux. Peut-être le budget y est passé.
Exactement. On va rejoindre l'entraîneur-chef des Capitales de Québec au bout du fil, Patrick Scalabrini. Pat, comment ça va?
Salut, ça va très bien vous-même?
Ça va très bien. Pat, on est passé à deux retraits du côté des Jays de l'emporter. On est passé à un coup sûr en 9e manche ou même en 11e manche. Toi qui es un entraîneur depuis énormément de saisons avec les Capitals, comment on se relève d'une défaite crève-cœur comme ça au 7e match de la Série mondiale?
Ah, on a besoin de temps, on a besoin de beaucoup de rampes. Non, c'est vrai. Écoute, il faut pas poser la question à personne pour les prochaines semaines. C'est certain qu'ils sont passés tellement proches, ils ont eu tellement une saison fantastique. Au-dessus des attentes, il faut l'admettre, il n'y a pas personne dans la saison morte, peut-être à part eux-mêmes, qui croyaient qu'ils allaient être capables de devancer les machines, les Yankees, les Red Sox, même les Orioles avec le... leurs dernières années, tu sais, ça a été une année fantastique. Faut en arriver à se souvenir de ça. Ils ont besoin de temps, c'est sûr. Jumelé à ça, ils ont, avec tous les agents libres qui risquent de quitter le bateau, ça peut faire mal, tu sais. Fait qu'on va se donner du temps. On va espérer, comme le propriétaire, comme le DG a mentionné, que cette magnifique vibe alentour des Jays de fin de saison, ça l'a démontré au monde entier, à tous les joueurs potentiellement disponibles, que Toronto, c'est un marché formidable pour y évoluer. Donc, on se croise les doigts, il y a des grosses pièces, il va y avoir des grosses pièces à remplacer, donc il y a beaucoup de boulot.
Priorité, signature à long terme pour Beau Bichette, selon toi, du côté des Jays, c'est quand même le quatrième frappeur de cette puissance offensive?
Ben oui, absolument. Ceci dit, tu sais, il va manquer d'argent peut-être à quelque part parce que tu sais, Vlad, quand ils ont signé Vlad, c'était connu, ils l'ont mentionné que c'était leur joueur de franchise, puis que tu sais, il peut pas en avoir deux, trois, ils peuvent pas investir ce type d'argent-là dans quelqu'un d'autre. Ceci dit, Beau Bichette a performé, a surperformé, il signe Blue Jays, il a mentionné encore et encore qu'il veut faire partie de l'aventure dans le futur. Tu sais, fait qu'on le souhaite en tant que fan. Je ne sais pas si on va être capable de le faire fonctionner dans tout ça. Mais oui, c'est sûr que les fans ont besoin de Beau Bichette. Par contre, c'est une grosse partie du casse-tête. Ceci dit, la rotation des partants fait extrêmement peur. Il va falloir travailler très fort pour rebâtir ça. Il y a quand même trois de leurs quatre partants des séries qui quittent, là, c'est potentiellement. Fait que ça risque d'être difficile.
OK, bien ça, c'était ma question, parce que je m'y connais pas trop, moi, en baseball. J'adore l'ambiance, j'adore y aller quand je suis en voyage et autres. Mais est-ce qu'on peut s'attendre à une saison comme celle de cette année, l'an prochain? C'était ma question.
Ben, il va falloir que toi et moi, on dorme là-dessus pour quelques semaines. Mais écoutez, autant les fans que les gens de l'administration, il y a beaucoup de temps à laisser passer et surtout beaucoup de travail. Fait que oui, on peut s'y attendre parce que je pense que on s'est mis à y croire. Je pense que le monde baseball croit aux Blue Jays maintenant. Ceci dit, aujourd'hui, on est loin d'être dans les favoris à cause de, principalement à cause des départs qui laissent apparaître.
Pat, je veux pas paraître trop chauvin, mais à Québec, on parle toujours de l'ambiance extraordinaire au Capitale, au stade municipal. Le Rogers Center était tout simplement hallucinant en fin de saison et durant les séries. quand je vois un lanceur d'expérience qui a gagné 3 séries mondiales en match Scherzer, qui touche son cœur et qui salue les partisans quittant le monticule au match numéro 7, je peux pas penser autrement que de me dire « on l'a tué l'affaire au Canada ».
Vraiment. Écoutez, Max, il y a un gars qui a du vécu là-dedans, c'est lui. À 41 ans ou quoi que ce soit, il a fait des séries mondiales, il a fait toutes les équipes, les grosses puissances ou à peu près. Qu'il a vécu ces moments-là en fin de carrière. T'sais, il y a beaucoup aussi, c'est l'esprit d'équipe dans l'esprit de corps de ce groupe-là qui est apparemment incroyable. C'est Vlad m'apparaît être un leader fantastique à ce niveau-là. Beau Bichette, c'est la même chose. Fait que, tu sais, je pense qu'il a adoré cette expérience-là en tant que grand frère. Je sais pas s'il veut poursuivre sa carrière. Là. Ça, c'est à 42 ans. Il nous a démontré qu'il est capable encore.
Ben, il en lançait encore à 96 000 à l'heure, Pat. Ça n'a pas de sens.
Oui. Je sais pas s'il est capable de s'essuyer les fesses cette semaine depuis ce moment-là. Mais écoute, vraiment, il a fait plus que sa part. Et puis, écoute, moi, peut-être que je tenterai ma chance de le ramener une petite dernière pour être ce grand frère-là, parce qu'il apparaît être un très, très bon meneur aussi avec les jeunes. Fait que, ça va d'avoir, mais comme tu l'as mentionné, ça démontre à quel point il y a quelque chose de spécial quand même qui se passe là.
Petite question marketing pour toi. Quand on a un engouement comme celui-là, puis on voit des gens payer très cher pour venir au stade, c'est sûr que ça va avec les victoires, c'est sûr que ça va avec la qualité de l'équipe puis de la saison. Mais comment est-ce qu'on réussit à surfer à plus long terme là-dessus? T'sais, ici, les Capitals, ils n'ont pas besoin d'avoir la meilleure saison de l'année pour avoir des partisans qui vont les défendre de corps et âme puis avoir l'intérêt. Comment est-ce qu'on réussit justement à capitaliser là-dessus puis à ramener le baseball sur l'avant-plan au Canada?
Ben, tu sais, juste cette expérience-là des Jays, la longue aventure dans les séries mondiales, je pense que ça a fait un méchant bout. Tu sais, je serais vraiment pas étonné de voir qu'il y ait une tonne de jeunes, de nouveaux inscrits au baseball l'an prochain. Tu sais, ça l'a fait jaser, ça l'a fait rêver. Je suis convaincu que comme je l'ai dit, les inscriptions vont être à la hausse grandement au Canada au complet, spécialement au Québec. On a vu la ville, la province était Blue Jays, de plus en plus de monde habillé en Blue Jays qui parlait de ça, qui trippait là-dessus. Fait que je suis convaincu que ça va aider les jeunes, le baseball, la popularité du baseball au Canada. Ensuite, tout ça va idéalement probablement amener également de l'intérêt à l'international au niveau des ligues majeures pour amener ces gars-là, les agents libres, les gars qui veulent venir essayer de vivre cette expérience-là aussi.
Pat, je te laisse là-dessus en te posant cette question-ci. Qu'est-ce qui se passe avec les Capitals présentement? Toi, tu es dans ta saison morte, mais es-tu déjà en train d'essayer de nous trouver un ou deux bons joueurs un peu partout sur la planète?
Ben oui, c'est 365 jours par année. On se couche le soir, on ferme les yeux, on pense à comment on va ramener nos joueurs clés, comment on va améliorer le produit en général. On vient de terminer un camp d'essai au Japon, comme on l'avait fait l'an dernier, qui a grossi. Donc, on va annoncer quelques signatures à ce niveau-là. On travaille fort sur re-signer certains de nos joueurs, mais aussi essayer de trouver de nouvelles et futures vedettes pour Québec.
Vous êtes exceptionnels, les Capitales de Québec. Lâchez pas, continuez votre excellent travail. J'ai déjà hâte au mois de mai prochain pour me retrouver au stade avec une petite bière à 4$ et une poutine à 3$.
Hâte de vous y revoir et hâte de voir le soleil aussi.
OK, oui. Merci beaucoup, Pascal Avrini, pour ces moments concernant la série mondiale de baseball entre les Jays et les Dodgers.
Toujours un plaisir, merci
Marie. Salut! Bonne fin de journée, Pat. C'était Patrick Scalabrini, entraîneur-chef des Capitales de Québec. J'ai adoré sa réponse. On prend le temps, puis on prend du rhum.
Oui, mais c'est honnête. Tu sais, je veux dire, ça a été une saison le fun. Puis là, les fans se disent, ben là, on est dans une série mondiale, puis tout ça, puis on n'est pas capable de boucler la boucle.
Exactement.
Par contre, quelle saison! Moi, je veux pas qu'on leur enlève ça.
Mais
ils
non.
ont été à la hauteur du nouveau stade, à la hauteur des gens qui se déplaçaient, à la hauteur de ce qu'on souhaitait, en fait, pour notre baseball.
Et incroyable, puis ça a bien des millionnaires, tu voyais des gars pleurer sur le banc à la fin du match. Donc, vraiment, les gars ont pris ça à cœur. S'il y a une équipe qui va bien, par exemple, Pascal, c'est les Canadiens de Montréal.
Attention, le baromètre à Demidoff qui était attendu par Cousins. La rondelle devant le bord des Sénateurs et Patterson passe intercepté.
Cinquième prolongation. Cinquième victoire pour le Canadien. marque tout le temps 3 contre 3, Pascal, le Canadien. Qu'est-ce qui se passe là? Ils sont premiers dans l'Est avec 18 points, 9 victoires et 3 défaites. Ils vont affronter les Flyers de Philadelphie au Centre Bell. C'est mardi 19h. Ça n'a pas de sens, le début de saison du Canadien de Montréal. Honnêtement, je pense que les fans peuvent croire. Puis là, si je t'en
là,
parle...
c'est vrai, là?
Ben, je pense que les fans peuvent croire à une longue épopée. Est-ce que ça sera une épopée à la Blue Jays et qu'on ira en finale de la Coupe Stanley? Je peux pas le dire.
Je le souhaite.
Honnêtement, cette équipe-là m'étonne clairement depuis le début de la saison. Donc, dans la Ligue nationale d'hockey ce soir, c'est une petite soirée à 4 matchs, mais on va surveiller le match Penguins de Pittsburgh, Maple Leafs de Toronto. Les Penguins qui ont 8 victoires, 3 revers et 2 défaites en prolongation aux fusillades depuis le début de la saison. Ça va bien pour la bande à Sidney Crosby. C'est déjà tout, Pascal Cévin.
Quelle émission? Tout ça sera disponible sur le blvd.fm.
En plein ça, le retour de Gravel sans Denis Gravel s'en vient. Véro Bergeron, Audrey Pinchot, Gab Marineau. Manquez pas l'entrevue avec le maire de Québec, Bruno Marchand, à 16h, et le chef de l'opposition, Stéphane Lachance, à 16h45.
Nous, on se parle dans le pit stop demain à 7h45.
Hey, oui, c'est toi dans
femmes,
le pit stop.
Semble-t-il.
La semaine des femmes dans le pit stop, c'est toi à 7h45. Merci de frapper en relève, on apprécie grandement.
Ça fait vraiment plaisir. Puis après ça, on se retrouve comme d'habitude dans On en jase.
On se retrouve en jase à midi. Restez à l'écoute. C'est le retour de Gravel qui s'en vient. Bonne fin de journée, guys.